Eh bien, bienvenue, bonjour à toutes, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Victor de Terre de Lutte. On a voulu lancer ce cycle de webinaires. Vous en avez peut-être déjà suivi d'autres. C'est maintenant le cinquième de cette série sur ce qu'on a appelé les réseaux outils, les réseaux de soutien des luttes, surtout ces dynamiques, ces initiatives, ces collectifs qui un peu partout appuient toutes nos luttes de façon matérielle et justement les rendent possibles de plein de façons différentes, leur donnent aussi plus d'importance et plus de facilité d'organisation. Je pense notamment à celles qu'on a, ces initiatives dont on a parlé dans les précédents webinaires, au réseau de cantines militantes et solidaires, au réseau de mutuelles de matériel, au réseau de ravitaillement, au réseau de soins aussi militants dans nos espaces et dans nos collectifs. Nous, on a voulu lancer ce cycle-là parce que ça nous semble très très important de mettre en visibilité ces collectifs-là, qu'ils sont trop peu connus, qu'on sait trop peu comment ils fonctionnent et l'importance qu'ils occupent dans nos luttes. Donc non seulement on a voulu faire ces webinaires pour pouvoir en parler et avoir des témoignages d'un maximum de ces collectifs pour peut-être inspirer d'autres à se lancer et donner des bons conseils pour le faire, mais aussi pour tout simplement les lister et pouvoir les rejoindre. On a réalisé une cartographie de ce qu'on a appelé ces réseaux de outils, ces réseaux de résistance locale un peu partout, qu'on va peut-être remettre dans le chat juste après. Vous pouvez retrouver en tout cas l'essentiel de ces initiatives dessus et en ajouter si jamais vous en voyez. Et alors ce soir, on va parler de ce qu'on a appelé les assemblées populaires et les dynamiques d'éducation populaire locale. Vous savez sans doute que tout est question d'organisation, en tout cas beaucoup. Et nous, on le voit beaucoup dans les luttes locales, dans les dynamiques, en tout genre de soutien aux luttes locales contre les projets imposés et polluants, mais en fait contre tout type, dans tout type de cadre. On l'a beaucoup vu le 10 septembre. On l'a aussi beaucoup vu dans le cadre de la dissolution de l'Assemblée nationale il y a un an et demi maintenant. Le fait d'être organisé localement, le fait de se connaître, le fait d'avoir pris des habitudes collectives et de pouvoir facilement se retrouver et faire des choses ensemble, c'est aussi un des remparts les plus efficaces, les plus solides et les plus intéressants en cas de crise et en cas d'attaque, comme on le subit en ce moment sur notamment les attaques anti-écologistes, antisociales et ou autoritaires. Et on se dit qu'on a vraiment besoin de renforcer notre organisation collective et de voir des manières de le faire. Donc, on a voulu donner la parole ce soir-là à plusieurs collectifs qu'on va accueillir et des coalitions qui tentent ça, qui cherchent des moyens de s'organiser collectivement à l'échelle locale, dans des cadres assez variés, en fait, assez différents, qui permettent aussi différentes façons de rassembler et puis de s'ouvrir et peut-être de changer la vie collective locale en grand. Donc, nous, on a appelé ça des assemblées populaires, des assemblées de lutte. Il y aura des mouvements municipalistes ou d'éducation populaire. Les formes sont très variées, très nombreuses. Et on a voulu justement donner la parole à quatre formes différentes ce soir, justement, qui témoignent de comment est-ce qu'elles s'organisent. Je vais vous donner la parole en deux mots d'abord pour vous présenter, vous voir d'où est-ce que vous êtes et d'où vous parlez. Est-ce que, Valentine, peut-être de la coalition VUR, tu veux commencer par dire un mot?
Oui, bonsoir à tous. Alors moi, je parle depuis Bruxelles. Je vis à Bruxelles, enfin, je travaille à Bruxelles, mais je viens des Pyrénées-Orientales. C'est mon territoire depuis 25 ans. Et donc, je suis l'une des deux porte-parole et coordinatrice de la coalition VUR. VUR, ça veut dire vivre en catalan, et qui existe depuis 2021. Voilà, donc un travail évidemment bénévole, militant et passionnant.
Excellent. Et on va pouvoir en parler, tu vas pouvoir nous raconter ça juste après. Nous avons aussi avec nous l'Assemblée des luttes de Vendée. Je ne sais pas si c'est l'exact terme, mais Laurine, tu peux peut-être en dire un mot.
Si, bonjour à toutes et tous. C'est bien l'Assemblée des luttes Vendée ou Assemblée des luttes 85. Et donc, oui, je suis Laurine. Alors, nous, on n'a pas de porte-parole ou en tout cas, tout le monde l'est. Il y aura un autre camarade qui se connecte, qui est en retard, qui s'excuse, Martin, qui va arriver sous peu. Donc, on sera deux à parler ce soir pour cette assemblée qui, comme son nom l'indique, a pris naissance en Vendée et donc s'organise à l'échelle du département. Et on en dira plus après. Et c'est une assemblée inter-organes, inter-collectifs, inter-individus. Voilà.
Excellent. Une autre assemblée, c'est peut-être celle de Quimperlé. Est-ce que Moana et Ziz, vous voulez en dire un petit mot?
Ouais, bonsoir tout le monde. Du coup, on est Moana et Zizane. Donc, nous, on est à Quimperlé en Finistère Sud, donc pour situer entre Lorient et Concarneau. Et du coup, on va vous parler un peu d'une d'un mouvement d'assemblée citoyenne qui s'est lancé, nous, autour du 10 septembre et qui a donné suite à la naissance d'un collectif. Et sachant que nous, on est sur le territoire depuis pas si longtemps que ça, parce qu'on est arrivé à Quimperlé il y a à peu près un an et demi. Donc, on est arrivé dans quelque chose qui nous préexistait aussi.
Ouais, ça, on s'inscrit dans le travail, dans un travail que mènent beaucoup de camarades depuis assez longtemps. Mais l'idée, c'est aussi de voir comment ça a évolué dans le temps et aujourd'hui, ce qui est en train de se générer à partir aussi de ce travail qui nous précède. Et donc, on va essayer de rendre compte comme il faut.
Excellent. Eh ben, on va pouvoir détailler tout ça. Et est-ce que Claude, tu nous entends? Est-ce que Claude, tu es là?
Oui, vous m'entendez?
On t'entend bien.
Vous m'entendez?
Oui, on t'entend.
Eh bien, ouais, Claude, voilà, je ne fais pas un collectif de lutte, mais je fais partie d'assemblée citoyenne municipale dans une petite commune. Qui réunit tous les habitants et qui fonctionne en démocratie directe, voilà, avec vraiment tout le monde de toute sensibilité. Et on fonctionne comme ça depuis 6 ans et ça produit certains effets, quoi. Donc voilà, je pourrais vous en parler ce soir.
Mais avec grand plaisir, et ouais, un modèle un peu différent aussi d'assemblée municipaliste. Ouais.
Je suis dans la Meuse, un petit village de la Meuse. Pardon, j'ai oublié de préciser.
Oui, c'est moi qui ai oublié, pardon, de préciser, de Ménil-la-Horgne, si je ne m'abuse. Et on va pouvoir se lancer. Voilà, la première question que je voulais vous poser à tous les quatre, c'était tout simplement d'où est-ce que ça part, d'où est-ce que vos initiatives d'assemblée de lutte, d'assemblée municipaliste, d'assemblée de coalition de lutte locale. D'où est-ce que vous êtes parti exactement et comment ça a commencé chez vous? On va commencer par le début, tout simplement. Et peut-être je donne la parole à... Est-ce que Laurine, pour commencer, tu serais partant?
Ouais, volontiers. Alors nous, la Vendée, c'est peut-être un territoire malheureusement à la hauteur de sa réputation parfois. C'est un territoire un peu particulier, un peu hostile en termes de on va dire de dynamisme militant. Et donc on a en revanche que dans la dynamique au moment du NFP, là, de ce moment un peu particulier en juin, on a remarqué que ça avait fait du bien juste de se rencontrer. Et qu'on ne le faisait pas assez. Et donc, partant de ce constat-là, on a jugé pertinent de maintenir le truc, mais pas du tout avec des perspectives électoralistes, pas du tout dans le cadre du NFP. Déjà, à ce moment-là, le cadre qu'on avait créé au moment du NFP était particulier, parce qu'en réalité, on avait plutôt convoqué les partis pour rencontres et discussions que l'inverse, et donc déjà bon, c'était un peu particulier. Et donc partant de ce constat là bon, on s'est dit que c'était pertinent d'avoir un cadre un peu permanent où on pouvait faire se rencontrer à la fois des syndicats, des associations, des collectifs qui luttent toute l'année, parfois en silo, souvent en silo, et également on a fait le choix de maintenir le contact avec les partis politiques dits alliés, dits de gauche au sens très large, vous verrez. Bon, pour le dire déjà très vite, ça c'est un cadre vraiment particulier parce que ça va du groupe Henri Laborie de la Fédération anarchiste jusqu'à Place Publique, ça fait un grand écart pour le dire comme ça. Et on arrive à faire communiquer ce petit monde. C'est un jeu d'équilibriste un peu permanent. Voilà, mais ça fonctionne bien. Donc c'est un peu ça l'origine du collectif. Il y a aussi des individus. Je sais que ça peut poser problème, je crois, dans d'autres fonctionnements, dans d'autres collectifs. Là, ça se maintient. Tout le monde a voix au chapitre. Voilà ce que je pouvais en dire. J'ai sûrement oublié des choses, mais... C'est un peu dans cette perspective-là. Et si juste dire que à l'origine, on a fait un choix en fait de planter le décor très vite, de façon assez stricte et rigide. C'est-à-dire que la démarche s'est lancée juste par un mail avec un envoi anonyme. Tous les mails étaient anonymisés, c'était volontaire et ça a été explicité dans la démarche parce que on voulait que les gens viennent par sincérité militante, par curiosité, par envie, et non parce que telle ou telle organisation collective vient ou ne vient pas. Et donc, ça a été visibilisé. Et aussi, on avait planté un cadre de fonctionnement assez rigide avec une explicitation de nos fonctionnements, tour de parole, prénom, pronom, mandat ou non. Voilà, en gros, pour faire vite et simple.
Ben, c'est trop bien, merci. Un petit mail pour de grandes choses. Mais ça part souvent de petites choses. Je donne la parole peut-être à Valentine, toi. Comment est-ce que vous êtes lancée sur la coordination VUR, qui était plutôt sur les luttes environnementales, si je ne m'abuse au départ?
Oui, effectivement, nous, notre coalition, elle se concentre uniquement sur les luttes écologistes, hein, donc protection des terres agricoles, naturelles et forestières. Donc nous, on est parti d'une lutte locale, très très locale. Donc il y a 5 ans, donc c'était à Caudalet, un petit village, enfin c'est mon petit village en l'occurrence, et donc on avait monté un collectif pour s'opposer à la construction de 25 maisons sur des terres agricoles irriguées. Donc, on a fait beaucoup de bruit et puis on a donc à un moment organisé une très grande manifestation et on a invité plein plein d'autres associations parce qu'on s'est rendu compte que il y avait énormément d'associations dans tout le département qui luttaient contre cette problématique de l'étalement urbain, des infrastructures imposées. En fait, c'est un peu c'est le cœur de la bataille dans les Pyrénées-Orientales parce que c'est un département qui vit du tourisme de masse, de l'agriculture aussi et de la rente foncière. C'est-à-dire qu'on a comme ça des familles qui avaient des terres et qui les ont vendues hein, pour construire de la résidence secondaire, construire enfin, aussi du logement, bien entendu, mais et des infrastructures touristiques. Et en fait, là, il y a quand même une sorte de fuite en avant sur ces projets-là. Hein. Il y a aussi des golfs, il y a aussi. Et donc, ça, c'est vraiment notre problématique sur ce territoire, enfin, entre autres. Et donc, donc, il y avait plein de petites associations et collectifs qui luttaient. Et donc, notamment, donc, il y avait une lutte assez emblématique, c'était contre un pont, le pont de Céret. D'ailleurs, ce pont, c'est toujours un dossier en cours. Et donc, tout le monde est venu et il y a eu énormément de monde. Et puis, la Confédération paysanne aussi, très vite, s'est rejointe à nous. Et donc, on a discuté, en fait. À un moment, on s'est mis sur le terrain, on s'est tous retrouvés, on a fait une grande discussion en se disant, mais il faut absolument qu'on réunisse nos forces, qu'on se fédère pour être davantage visible face devant le public. Mais également face au pouvoir public, face aux élus locaux. Et donc, on a lancé cette coalition. Donc, on l'a nommée coalition. On trouvait que c'était le mot le plus juste. Et donc, c'est uniquement des associations ou des collectifs, donc des locaux. Et puis également, on a des organisations naturalistes, hein, comme la LPO, par exemple. Et puis on a également des groupes plus militants écologistes radicaux type Extinction Rébellion et Soulèvement de la Terre également, même si actuellement c'est un petit peu le calme, enfin c'est le calme plat pour tout le monde d'ailleurs. Donc on est à peu près 26 associations et on reste informel parce qu'on ne voulait pas risquer d'être accusé de quoi que ce soit et de passer au travail les mailles de la justice s'il y avait eu un problème. Voilà comment ça a démarré. Et donc, on est deux porte-parole, entre guillemets. Moi, je me suis retrouvée dans ce rôle-là, un petit peu, je ne sais même pas comment d'ailleurs, je me suis retrouvée là-dedans. Mais du coup, on fonctionne comme ça. Et puis après, un peu plus tard, je vous raconterai comment on fonctionne justement.
Excellent, merci beaucoup Valentine pour la genèse de Vure. Je vous rappelle juste que pour les personnes qui nous écoutent, qu'il y a le chat où vous pouvez poser des questions, n'hésitez pas à le faire dès maintenant, aussi à mettre des liens. Effectivement, je crois que Gégé a trouvé le lien de Vure. Merci. Pour aller plus loin, bref, n'hésitez pas à d'ores et déjà poser des questions et on y répondra un peu plus tard dans la soirée. Pour la suite, je voulais te donner la parole. Claude, notamment sur vous, la dynamique de municipaliste, où vous avez carrément lancé une dynamique collective pour prendre la mairie, si je ne m'abuse.
Oui, voilà. Donc, moi, après toute une vie de militantisme dans toutes sortes de groupes différents, je me suis retrouvé dans le mouvement des Gilets jaunes en 2018, et notamment à Commercy, dans la frange assembléiste des Gilets jaunes, qui a rassemblé environ 30% du mouvement. C'est de là qu'est née l'Assemblée des Assemblées, où on a essayé d'offrir un débouché politique au mouvement autre que Macron dehors. C'était que les gens se gouvernent eux-mêmes et apprennent sur les ronds-points et ailleurs, à s'autodiriger, à discuter collectivement des suites à donner, de ce qu'on devait faire et de comment on pouvait organiser la société. On a échoué, comme vous le savez, mais quand même, ça a laissé des traces, ça a semé des graines. Et du coup, moi, j'ai eu l'opportunité, dans le prolongement de ce mouvement, de devenir maire de ma commune, une petite commune de 200 habitants. Inspiré par tout ce qui venait de se passer, j'ai proposé à la population de se rassembler au sein d'une assemblée citoyenne, populaire, comme on veut, et de prendre les décisions elles-mêmes, et moi de devenir non pas un dirigeant ou je ne sais quoi, mais d'inverser le paradigme et de devenir un exécutant de la volonté de cette assemblée-là. Alors, c'est délicat parce que on sort de sa zone de confort et de l'entre-soi des idées progressistes pour se retrouver plongé dans un monde où on est confronté à toutes les positions sociales, écologiques et politiques des gens. Mais ils ont adoré, ils se sont appropriés l'Assemblée citoyenne avec bonheur, je dirais. Et on a commencé à échanger sur les grands sujets qui font la vie du village. Et il y a quasiment, je dis pas toute la population, ça serait mentir, mais presque, qui participe à ces assemblées et qui discute non pas bloc contre bloc, mais projet par projet, avec des sensibilités, comme je le disais, toutes différentes, mais qui donnent parfois des décisions surprenantes. Dans des villages, comme vous le savez, qui sont quand même plutôt marqués à droite et à l'extrême droite, eh bien, on a des décisions qui vont vers le collectif. Par exemple, dans mon village, l'Assemblée a choisi, vraiment en dehors de mon influence, de l'influence du militant que j'ai pu être, par exemple, de passer à l'autoconsommation collective solaire. A par exemple refusé l'installation de caméras de surveillance partout alors que j'étais persuadé qu'elle voterait le contraire. Et ce qui fait qu'on peut discuter sereinement de ces sujets-là sans se jeter des anathèmes de sale gauchiste ou de sale droitard à la tête, et ben c'est justement la confiance. C'est la confiance dans le fait que l'élu, il n'est plus un dirigeant qui va imposer sa sensibilité et sa volonté, mais qu'il est bel et bien un exécutant prêt à abdiquer de ses propres convictions qu'il a défendues dans l'Assemblée citoyenne, mais qui, si ma foi, la décision qui est prise est contraire, il y a un engagement moral qui est celui de respecter l'état d'esprit du moment des habitants et de la population. Ça, cette confiance, elle permet aux esprits, je pense, de progresser plus rapidement et de prendre des décisions que le collectif n'aurait jamais prises dans un autre contexte, quoi. Donc, je dis pas que c'est la panacée, mais en tout cas, je m'y sens bien mieux que ce que j'étais avant, parce que on remporte, ça apporte beaucoup de satisfaction, et c'est une forme de lutte, je pense, mais dans une ambiance beaucoup plus paisible que celle que j'avais connue jusque-là. Et puis le deuxième point positif, c'est que ça commence à s'étendre. Il y a pas mal de communes qui souhaitent fonctionner sur le même mouvement. Alors, c'est pas du participatif, pas du tout. C'est participatif, pour moi, c'est de la démocratie cause toujours. C'est vraiment du direct, c'est-à-dire que c'est décision des habitants et exécution de leur volonté. Voilà pour mon histoire.
Merci beaucoup pour cette histoire. On rappelle d'ailleurs que les élections municipales sont dans 5 jours et que peut-être que si jamais on pouvait mettre plus d'élus qui soient au service des gens exécutants de la population, ce serait quand même vraiment super. Je donne la parole peut-être pour finir les présentations à Moana et Ziz sur l'Assemblée de Quimperlé.
Merci. Du coup, pour vous situer un peu dans le contexte du territoire. Déjà, comme on le disait, c'est assez important. Nous, on est arrivé récemment sur ce territoire, ça fait 1 an et demi. Et du coup, Quimperlé, c'est une ville de 12 000 habitants. Il y a pas mal de villages autour qui sont assez actifs, et c'est plutôt dans ces villages-là qu'il se passe des choses. Et il y avait du coup déjà beaucoup d'initiatives qui nous précédaient. Il y a un grenier des soulèvements à côté de Quimperlé. Il y a des cantines qui sont montées dans le coin. Il y a un comité local des soulèvements. On a aussi une union locale de solidaires qui est assez active. Donc voilà, c'est quand même un territoire qui est bien foisonnant d'initiatives militantes déjà de base, mais avec quand même assez peu de gens. En fait, c'est les mêmes militants qui sont dans tous ces groupes-là, et donc ça se recoupe vachement. Et du coup, il y avait quand même une difficulté, je pense, à sortir un peu de cet entre-soi militant. Et sur Quimperlé même, c'est une ville qui a une mairie PS qui est quand même assez alliée, on va dire, sur pas mal d'initiatives. Et qui permet notamment à beaucoup de projets culturels de se réaliser. Enfin, à Quimperlé, il se passe quand même beaucoup de choses de base, et c'est un territoire sur lequel il y a les éditions Divergence qui se sont implantées il y a 2 ans maintenant. Et c'est un élément assez important parce que ça favorise quand même l'émergence de pas mal de groupes militants. Et point important aussi, c'est qu'il y a une certaines fame, on va dire, du territoire. Donc depuis quelques années, enfin on en fait partie, hein, il y a pas mal d'urbains qui viennent vivre sur le territoire, donc beaucoup de Nantes, Rennes et région parisienne, beaucoup Montreuil en fait, et qui voilà, tombent ensemble à Quimperlé. Et donc nous, c'est dans ce contexte-là qu'on a lancé donc une assemblée citoyenne en réponse à l'appel Indignons-nous, bloquons tout, donc pour le 10 septembre. Donc on a fait une première assemblée fin août à Quimperlé qui a réuni 130 personnes, donc on était quand même assez surpris qu'il y ait autant de monde. Il y avait là-dedans donc tous les militants déjà dans les initiatives existantes, des anciens gilets jaunes et en fait beaucoup de primo militants qui ont rejoint cet appel là. Et l'objectif à la base de cette assemblée, c'était d'avoir quelque chose qui soit vraiment très citoyen, de faire des actions qui permettent de parler à tout le monde de tout horizon politique et d'essayer de rallier des personnes les plus diversifiées possibles, quoi. Donc, on a beaucoup utilisé l'outil des auditions citoyennes au début pour aller rencontrer des gens dans la rue, parler, essayer de ramener du monde. On a eu du coup des assemblées qui ont duré pendant plusieurs semaines. Et deux grosses mobilisations sur le 10 et le 18 septembre. Voilà. Et donc, ouais, vraiment la volonté de constituer un mouvement très citoyen. Et ça a un peu bougé. Enfin, on en parlera un peu plus après. Mais finalement, on se retrouve aujourd'hui qu'entre gens de gauche. Et ça a été compliqué de maintenir des profils différents, quoi. Voilà.
Ouais, Pure va. Merci. Bon, on va revenir après sur du coup ce que ça a généré et comment du coup ouais c'est ça. Comment un peu transformer l'essai de ce mouvement politique qui a été le 10 septembre mais qui a en fait pu donner beaucoup d'autres choses. Voilà, bon, on va revenir peut-être après dessus sur la partie suivante.
Bah, tout à fait, ça fait une parfaite transition avec la question d'après que je voulais vous poser, qui était celle de ce que permettent ces différentes initiatives. Vous avez déjà commencé à défricher des pistes. J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs que vous avez déjà un peu identifiées, qui sont de l'ordre de arriver à se rassembler plus largement, de l'ordre de sortir un peu de l'entre-soi aussi, même si, comme vous disiez, c'est aussi un défi à chaque fois. Et puis peut-être se permettre des actions et des initiatives que vous n'auriez pas pu faire ensemble. Mais je vous laisse peut-être en parler. Est-ce que Laurine ou l'autre camarade que tu mentionnais de l'Assemblée des luttes de Vendée, vous pouvez nous dire un petit mot plus long sur ce qu'a permis cette Assemblée de lutte depuis qu'elle existe?
Martin nous a rejoint. Si ça te va, Martin, je peux juste lancer, puis tu n'hésites pas à compléter. Ce que je vous ai pas dit en préambule, c'est que ça s'est lancé l'assemblée avec une première initiative. Nous, ça fait un an seulement, hein, en gros, que ça existe et que ça vit, et elle s'est lancée autour d'une mobilisation en écho à une mobilisation nationale qui d'ailleurs va avoir lieu sous peu, à savoir la marche des solidarités, Et en gros, ça a fait sens que qu'on la rejoigne en Vendée pour plein de raisons. Et donc, l'acte un peu de fondation, ça a été une mobilisation sur l'antiracisme, l'antifascisme, quoi. Ce qui faisait sens étrangement en Vendée. Voilà. Donc, du coup, ça s'est un peu articulé autour de ça. Et après, je vais te laisser la parole, Martin, si tu as des compléments à apporter. Mais de mon point de vue et pas que du mien, a priori, nous, on a jugé l'assemblée pertinente parce que, en fait, en dehors de l'intersyndicale, il n'y avait pas de cadre en réalité de rencontre. Comme je disais tout à l'heure, il y avait vraiment cette envie de rencontre. Entre assos, collectifs, individus, syndicats, etc., et même partis, et que on s'est dit qu'en fait, il y avait un sens à avoir un champ de lutte partagé, qu'on avait toutes et tous des statuts différents, des fonctionnements différents, des compétences, des savoir-faire, et que ensemble, on pouvait arriver à se déployer sur des champs de lutte partagés et à faire vraiment bouger les choses. Moi, c'est ce que je dirais comme ça. Je ne sais pas si Martin.
Bonsoir à tous. Je suis désolé, vous m'entendez bien? Ok. J'ai loupé le début, donc j'espère ne pas être maladroit et redire des choses que tu as dit, Laurine. Si c'est le cas, tu me fais un grand signe très visible pour que je m'arrête tout de suite. Non, je rejoins ce que disait Laurine. Et puis, la seule chose que je rajouterais peut-être, c'est le fait que ce que ça a permis de créer, c'est aussi des nouvelles pratiques très concrètes en manif qui ont émergé, selon moi, ou qui ont commencé à émerger aussi avec les différences de regard et les différentes façons de faire. En manif ou lors de moments collectifs. Je pense au fait d'avoir une base arrière, je pense au fait d'avoir des initiatives comme une cantine qui arrive petit à petit. Je pense que ça a créé aussi l'émergence de ces initiatives-là, parce que forcément, plus on était autour de la table, plus ça laissait de la place à ces initiatives, parce qu'il y avait un espace collectif de composition et de délibération. Voilà ce que je peux peut-être ajouter.
Rien que ça, c'est déjà beaucoup et ça n'existe pas partout. Donc, effectivement, bravo et merci de ce témoignage. Je ne sais pas si Valentine, ça te fait écho et si tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qui a permis la coalition Jure.
Oui, alors en fait, dans les Pyrénées-Orientales, en fait, il n'y a pas vraiment de tradition très militante, hein, comme je l'entends sur d'autres territoires. C'est assez difficile. Donc, on a un petit peu. Alors, il y avait une association qui existait qui existe toujours depuis 40 ans, qui s'appelle FREN, qui était en lien avec FNE et qui fédérait d'autres associations de protection de l'environnement qui sont également dans la coalition et qui donc cette association fait beaucoup de recours juridiques et c'est tout. Voilà. Donc. Alors, elle est en soutien avec, c'est un peu le bras armé juridique de la coalition. Et donc, le fait d'avoir créé, enfin, d'avoir rassemblé tous ces collectifs sur le département, donc ça nous a permis de sentir que déjà on n'était pas tout seul. On a pu échanger énormément d'informations, de compétences. On a pu également, donc, on a rendu des mobilisations beaucoup plus importantes que si elles avaient été organisées par une association seule au niveau très local. Par exemple, il y a eu une très grosse manifestation contre le pont de Céré il y a 3 ans. Je crois qu'il y avait quasiment 5000 personnes qui étaient quasiment jamais arrivées depuis. Après, il y a eu une grosse manifestation également contre un projet de golf et d'hôtel où il y a eu également autant de manifestants et ça aussi c'était vraiment quasiment du jamais vu. Donc on a pu organiser pas mal de manifestations, on a fait aussi des conférences de presse, donc on est assez maintenant là, les journalistes nous suivent, ils font des articles, ils commencent à s'intéresser au sujet, aux problématiques environnementales dans le département. On a même aussi pas mal de journalistes de la presse nationale qui nous contactent, on a créé un site. Tout ça, ça a été créé bénévolement avec des infographistes bénévoles. Il y a quelqu'un qui s'occupe du site, qui écrit les articles. Enfin voilà, donc tout ça, c'est vraiment que du. C'est sur le temps libre des gens. Et on a fait aussi pas mal de campagnes de sensibilisation, notamment sur les centrales solaires au sol. On a fait venir. La dernière action qu'on a menée, c'était. Faire venir les auteurs d'un livre contre les panneaux photovoltaïques marchands de soleil. Donc ils ont fait une conférence sur 3 endroits différents du département. Enfin voilà, donc on fait pas mal de choses comme ça. Après, on aide aussi quand il y a des habitants qui sont un petit peu, voilà, qui s'indignent d'un projet, qui voient voilà des arbres coupés, ce genre de choses, ils appellent. Enfin voilà, on fait un peu ce lien-là. Ça nous a aussi permis de bien connaître le mode de fonctionnement du territoire, enfin les réseaux, les acteurs locaux. Donc ça, c'était important. Moi, je me suis formée en droit de l'environnement l'année dernière pour voilà avoir des outils supplémentaires. Donc ça nous permet après de répondre à des enquêtes, des concertations publiques quand il y a des projets. Et puis on a aussi, alors il y en a beaucoup d'entre nous qui sont allés sur les manifs contre la 69 par exemple, hein, on voulait aussi être solidaire des départements voisins, donc on a été beaucoup, enfin on a été sur les deux ou trois manifs de la 69. Et donc, et alors, on avait décidé à l'issue d'ailleurs de ces manifestations de se rapprocher, de faire du milieu universitaire de Perpignan, donc l'UPVD. Et donc, on les a sollicités et il s'avère qu'eux aussi, ils avaient envie de créer un athécopole comme à Toulouse. Et donc, ils ont créé le Catécopole qui est très actif. Et donc, nous, on avait besoin aussi d'être en lien avec ce milieu-là pour qu'ils puissent aussi donner des informations fondées, des sources voilà, de scientifiques quand il faut parler dans la presse, quand il faut vraiment appuyer en fait, les luttes hein, pour les justifier. Parce qu'en fait, c'est toujours un peu la question. C'est quand on a des élus locaux qui réchignent, il faut leur expliquer pourquoi, ben oui, il y a le réchauffement climatique, il y a telle conséquence sur la ressource en eau, etc., etc. Et vous voyez, c'est appuyé scientifiquement, la preuve, il y a des universitaires de l'Université de Perpignan qui travaillent dessus, etc. Donc c'est une grande réussite, en tout cas, d'avoir aussi mobilisé le milieu universitaire. Et eux, ils avaient sorti d'ailleurs une tribune qui avait été signé par 100 universitaires lors de la manifestation, la grosse manifestation il y a 2 ans contre le golfe de Villeneuve de la Rao, et qui malheureusement, donc voilà, malgré tous nos efforts, en fait c'est difficile, on n'y arrive pas, et d'ailleurs ce projet est en train de se faire. Mais voilà, en tout cas, on continue et avec des hauts et des bas, donc on en parlera peut-être après, mais en tout cas c'est ce que ça a permis de faire, cette grande coalition. Et donc évidemment, enfin on avait parlé un petit peu de parties, on a fait le choix. À un moment il y avait quelques syndicats, le seul syndicat qui est avec nous c'est la Confédération paysanne. Mais on a fait le choix de pas intégrer des syndicats ou des partis, même si on est beaucoup tous en lien, soit avec les écologistes ou le PS ou le PC. Donc évidemment, c'est une coalition qui porte des valeurs de gauche, même si on ne le dit pas, mais on essaye quand même de faire des liens avec, il y a un mouvement notamment qui est un petit peu sous les mêmes sujets que nous, mais qui est plus à droite, plus traditionnel, mais on veut quand même être en lien avec eux pour essayer de toucher quand même un maximum d'habitants sur ces questions écologistes, sinon voilà, pour pas que ça devienne que un sujet porté par la gauche. Donc ça c'était important, d'essayer d'être voilà pas trop étiqueté, même si en fait on est de gauche, ça c'est sûr, quoi. Voilà ce que je peux dire en tout cas sur ce qu'on a pu faire grâce à cette coalition.
Ben merci, mais effectivement n'hésitez pas non plus aussi à rebondir sur les questionnements des uns des autres, puisque j'ai l'impression que c'est aussi des questions qu'on se repose un peu tout le temps. Comment est-ce qu'on arrive à sortir de l'entre-soi, arriver à faire des trucs plus collectifs? Je voulais te donner la parole, Claude, peut-être pour la suite sur justement cette question de sortir de l'entre-soi et de qu'est-ce que ça a permis de créer votre liste et votre démarche. J'ai l'impression que tu l'as un peu dit, mais que à la fois sur l'aspect programme, par exemple sur la vidéosurveillance, ça a changé des choses. Est-ce que toi, tu dirais que ça a changé la vie de la commune et que ça a peut-être permis de mobiliser des personnes différentes?
Oui, ça a changé la vie de la commune. Alors, bien sûr, on peut pas parler ici de mobilisation de lutte ou contre des projets ou des choses comme ça, les gens n'en sont pas là. Par contre, ça les a mobilisés sur le plan de l'engagement pour s'occuper, reprendre le pouvoir sur leur vie, reprendre leur pouvoir sur leur cadre de vie et sur, sur leur vie elle-même, notamment dans les relations avec, avec les autres. Il y a eu une, je ne dis pas une inversion de la tendance du, au repli sur soi, mais en tout cas, comment dire, une inflexion qui a fait que ben, les gens sont plus ouverts aux autres, s'écoutent, acceptent de se rencontrer. Certains conflits se sont estompés, et puis on peut parler de tout, aborder tous les sujets, et chacun écoute respectueusement les arguments des autres, ce qui fait que bien nous, les arguments qu'on pourrait donner dans, dans nos cadres habituels, et qui ne sont entendus que par ceux qui sont déjà plus ou moins d'accord avec nous, et bien là, on peut les exprimer dans, dans un cadre plus large, ce que j'ai entendu juste avant, d'ailleurs, et c'est que c'est sur des sujets concrets, précis, qu'on peut en venir à des attitudes plus générales. Par exemple, nous, on a fait l'acquisition, enfin, l'Assemblée citoyenne a choisi de faire l'acquisition de nombreux bâtiments, d'un restaurant communal, de communaliser pas mal de biens. Alors que c'était pas du tout dans l'esprit de départ, mais les gens ont trouvé que d'eux-mêmes, que c'était intelligent de se réapproprier tout ça pour en faire des lieux de vie, pour en faire des endroits de socialisation où on se rencontre. Alors, c'est pas exprimé comme ça, bien entendu, avec nos mots à nous, mais c'est un instinct tout naturel qui se porte vers ça, vers des choses de partage et de confiance et d'amitié. Attention, je voudrais pas qu'on croie que je brosse un tableau parfaitement idyllique, hein, il y a encore plein de problèmes, mais en tout cas, l'inflexion elle est nette. Il y a vraiment une réorientation de la façon de voir des gens grâce aux échanges qu'on peut avoir, aux débats qu'on peut avoir, où on accepte où on vient pas pour asséner des vérités, mais où on vient pour en acceptant par exemple éventuellement changer d'avis. On ne vient pas pour promouvoir une idée contre une autre idée. On vient pour échanger dans l'intérêt du village et de notre vie et trouver la meilleure solution qui soit. Et on n'est pas dans une lutte de pouvoir pour savoir qui va dominer l'autre, mais ce pouvoir, il est restitué à l'ensemble des personnes. Donc ça instaure un climat qui, à mon sens, doit pouvoir donner une évolution progressiste des consciences et qui, si c'était étendu à une grande partie de la société, bah, pourrait être un facteur déterminant vers l'avancée d'un monde de progrès plutôt que d'obscurantisme. En tout cas, c'est mon espoir et mon vœu. Je vois même pas aujourd'hui comment on peut y parvenir autrement. En tout cas, à l'issue d'une vie militante, j'ai toujours l'impression d'avoir ramé et de voir au contraire des choses horribles s'installer. Et du coup, j'ai vraiment envie qu'on essaye autre chose. Alors, je sais pas, nous, c'est vraiment un petit truc, hein, faire l'oméga, mais en tout cas, on a prouvé à cette micro-échelle que ça pouvait fonctionner. Donc, si ça peut fonctionner chez nous, un village normal qui a toujours voté RN à 50 ou 60%, avec des gens normaux, pas plus généreux, pas plus brillants, pas plus... et pas dirigé par un maire particulièrement charismatique, si ça peut marcher chez nous, eh ben, ça doit pouvoir marcher partout. Juste qu'on bouge très légèrement le curseur de la démocratie, pour tenter l'aventure. Et la tenter, ça veut pas dire que ça va ensuite, mais en tout cas, je suis persuadé, après ces 6 années qu'on vient de vivre, et qu'on vraiment tout changer ici dans nos vies, que ça pourrait véritablement fonctionner même à de plus grandes échelles, à condition de s'en donner les moyens et d'en avoir la volonté. Je crois ça.
Ben, merci beaucoup, Claude. Il y a trois petites questions pour toi dans le chat. Je te les pose directement pour rebondir. Déjà, quel est le nom de la commune? Quel est le nombre d'habitants de la commune? Et qui sont les profils des personnes, des gens qui participent ou qui ne participent pas au choix de la commune?
Alors, on est petit, on n'est même pas 200 habitants. Et il ben, c'est, y en a pas. Il y a des profils complètement divers et variés. C'est tous les habitants qui participent. On est tous ensemble, de gauche, de droite, du centre, des paysans, des ouvriers, des chômeurs. Voilà. Évidemment, on n'a pas une population très. Comment dire, racisés par ici. On a quand même des familles, une famille kosovare et une famille de Kanak, qui est pour un petit village, je sais pas, qui sont fort bien acceptés d'ailleurs. Mais il n'y a pas, voilà, il y a tous les profils, quoi. Et puis, je vois une autre question. Comment se passent les municipales chez toi? Bah, fastoche, on n'a qu'une liste et c'est la nôtre. Enfin, avec plein de nouvelles gens dessus, mais on repart pour faire une assemblée. Et il y a quelques personnes dans le village très peu, mais qui sont toujours défavorables à notre système, qui préféreraient un maire autoritaire. Il y en existe. Hein. Et celles-là, si elles avaient voulu faire une liste, c'était impossible qu'elles l'emportent. Alors qu'il y a 6 ans, on n'avait qu'une liste aussi, mais si on avait eu 2 listes, on était battus. Parce que personne n'aurait cru à un truc aussi fou, aussi farfelu. Mais aujourd'hui, 6 ans après, plus personne, l'immense majorité des gens ne veut pas revenir en arrière. On va continuer à avoir la démocratie directe dans le village parce qu'on y a vraiment pris goût collectivement. Donc, c'est fait, quoi. Le passage est fait. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup. Super intéressant. Peut-être pour aussi cette question de ce que permettent les dynamiques d'assemblée particulièrement, bah, je donne peut-être la parole pour conclure à Moana et Ziz à Quimperlé, et particulièrement vous, c'est quoi vos angles d'attaque et vos sujets particulièrement que vous avez investis avec l'assemblée? Je crois que vous êtes beaucoup posé la question.
Ouais, c'est ça. Du coup, on a eu vraiment une assemblée qui était très active pour le 10 septembre au début, quoi, sur les dates du 10 et 18. C'était assez fou par rapport à la taille de Quimperlé. On a quand même réussi à organiser des assez gros événements avec des cantines locales, du coup, qui étaient déjà présentes, etc. Il y a beaucoup de monde qui a convergé vers enfin, pour ces dates-là. Et puis ensuite, voilà, sur le long cours, il y avait quand même la volonté de continuer à se rassembler, bien sûr, donc à partir de ce qui s'était créé, des solidarités qui s'étaient créées déjà avec beaucoup de primo militants, militantes qui avaient rejoint qui avaient participé à ce collectif-là. Il y avait la volonté de continuer ensemble. Et puis on a vécu ce que on vit toujours dans ce genre de moment quand il y a des quand il y a des quand il y a des grands instants politiques comme ça, et puis qu'en effet, au bout d'un moment, la tension, elle redescend un peu. On a vu des personnes disparaître de plus en plus, et des 130 personnes dont on était parti au début, il restait quoi, 10-15 personnes, on va dire, à la fin décembre. Et en fait, de là, il a commencé à avoir vraiment des réflexions sur. Voilà, on n'a peut-être pas forcément envie de. Le but, c'est pas de faire vivre le 10 septembre coûte que coûte. Le but, c'est de se demander comment, en effet, transformer l'essai sur le territoire et qu'est-ce que ça peut donner de nouveau, en fait, ces nouvelles solidarités qui ont émergé. Et comment on réfléchit à des choses qui peuvent s'inscrire dans la longue durée sur le. Et puis potentiellement, s'il se repasse des choses, bah, recanaliser des énergies autour de ce groupe existant qu'aura trouvé des manières de perdurer et de nourrir des nouvelles solidarités, quoi. Et donc là, l'idée d'abord, ça a été de se dire, on va aller un peu discuter avec les gens, un peu sur le modèle des auditions citoyennes, et on avait créé un petit modèle de sondage citoyen où l'idée c'était de poser une question très simple, percutante et très consensuelle surtout pour aller choper les gens et faire une forme de sondage qu'on pourrait très facilement rendre, dont on pourrait très facilement rendre compte dans une feuille de chou locale où en première page on mettrait la stat avec un visuel joli, etc. Et la première feuille qu'on avait faite c'était faut-il dégager Macron? Très simple. On avait demandé ça devant chez Bigard, parce que nous, on est la ville de Bigard. Il y a 1200 employés chez Bigard à Quimperlé. C'est vraiment la ville historique de Bigard. C'est une ville de 12 000 habitants. Donc ça représente quand même 10% de Quimperlé. C'est des employés de Bigard, même si bon, tout le monde ne vit pas à Quimperlé. Mais et en fait, on avait eu des réponses super positives et des gens qui discutent un peu avec nous malgré le taf un peu pénible et tout qu'ils font, quoi. Qui avaient pris le temps de discuter, etc. Et ça avait été la feuille de chou. L'idée, c'était un peu de voilà d'avoir un truc très simple, ouais. Bigard, c'est de l'industrie de viande, quoi. C'est des abattoirs gigantesques. Voilà, c'est ceux qui font les steaks Chara, les compagnies, quoi, la boucherie industrielle. Et voilà, l'idée, c'était voilà, d'avoir une feuille locale un peu percutante, et puis derrière, que ça puisse permettre de poser des petits textes écrits par des personnes en local, et les personnes qui ont contribué, il y en a qui étaient déjà des personnes militantes depuis longtemps, et d'autres pas du tout, en fait, qui se sont essayées à l'écriture, etc. Et l'idée, là, c'est de poursuivre cette feuille de chou. Il y a eu un petit temps mort là-dessus, mais on repart sur d'autres thématiques qui sont des thématiques vraiment très liées au territoire. Et l'idée va être de reproduire ce modèle un peu de sondage citoyen pour parler du logement, de l'alimentation, parler de la guerre aussi, même si c'est un sujet plus général et moins ancré dans le territoire. Mais on a quand même l'Anbiwe qui est à côté de chez nous, c'est-à-dire l'aéroport militaire de l'Anbiwe qui est à Lorient. Voilà, donc parler un peu de ces sujets-là proches du territoire. Et puis surtout... se demander comment on crée un moment un peu collectif, comment on refait vivre un peu cette dynamique d'assemblée là qui commençait un peu à se fatiguer, quoi, et à être moins attrayante. En fait, comment on fait revivre un moment. Et là, il y a eu l'idée un peu de créer un moment de soupe collective, voilà, qui est un principe qui n'est pas nouveau du tout, quoi, et de proposer un moment qui s'appellerait une soupe causerie où chacune apporte ses légumes et ensemble on fait une grande soupe. C'est le moment où on va éplucher, couper les légumes. C'est un moment où on va pouvoir discuter avec les nouvelles personnes qui se présentent, etc. Et puis le temps que ça cuise, le temps de manger, avoir des discussions politiques sur différents sujets, etc. Et on a donc la chance d'avoir Divergence qui est sur le territoire et qui nous a prêté un local. Là, il y a une cantine, un petit resto de Divergence qui avait ouvert et qu'on utilise du coup là maintenant pour ça. Et on se retrouve deux fois par mois. Le mercredi pour ce moment-là, et en fait c'est devenu là déjà assez rapidement un gros moment de rencontre où là la dernière on était 25 personnes où l'idée c'était d'apporter ça a été de discuter un peu voilà de tous les sujets qui tiennent à cœur aux personnes qui viennent, quoi, et donc là il y a eu plusieurs choses qui ont été discutées et c'est aussi c'est un lieu un peu incubateur de plein de choses qui peuvent se produire sur le territoire. Donc on parle de cette feuille de chou, et puis de là est partie aussi l'idée de faire une coopérative de consommation sur le territoire, c'est-à-dire de refaire un peu à l'ancienne, comme ça se faisait dans le monde ouvrier il y a 150 ans, de se passer un peu des intermédiaires alimentaires et de reprendre à notre compte en fait la distribution alimentaire. C'est un modèle plus simple que tous ceux de sécurité sociale de l'alimentation qu'on entend. L'idée, c'est de marger un peu sur les produits pour que ça puisse servir à nourrir des caisses solidaires qui peuvent ensuite servir à nourrir des projets militants sur le territoire, etc. Donc là, il y a une équipe qui, à partir de ces soupe-causeries, s'est montée et se retrouve aussi régulièrement en dehors pour travailler sur ce projet-là. Il y a typiquement, à la dernière soupe, on a parlé d'un... Enfin, il y a deux soupes, on a parlé de faire du soutien aux paysans et paysannes locaux avec la formation d'une brigade d'action paysanne là, sur le modèle de ce qu'ils font en Belgique. Et donc d'aller... soutenir les paysans et les paysannes locaux qui ont des pratiques respectueuses de la terre, etc., le plus possible, et qui en fait souvent du coup se retrouvent dans des situations vraiment très précaires parce que voilà, un minimum d'intrants et ce genre de choses. Et là, il y en a plusieurs autour de chez nous qui sont dans cette situation-là et qui en fait ont dit qu'un coup de main serait le bienvenu. Et donc du coup, là, il y a des équipes qui se sont montées aussi pour assurer ce soutien aux paysans locaux. Et puis il y a aussi le gros sujet qui est sorti, parce qu'on a eu le plaisir de découvrir qu'on était à Quimperlé, une des quatre villes en Bretagne qui avait accueilli un hommage à Quentin de Ranque après sa mort. On était très très surpris que ça arrive chez nous, parce qu'encore une fois c'est un territoire qui est quand même plutôt de gauche. Alors il y avait quasi personne à ce rassemblement, Et on a monté à toute vitesse un contre-rassemblement qui a accueilli, il y avait quasi 200 personnes, quatre fois plus que le rassemblement de l'extrême droite ici, qui avait été lancé par un ancien candidat Reconquête. Hein, donc il n'y avait pas trop de doute sur la nature de ce rassemblement, la nature politique de ce rassemblement. Et du coup, de là est née l'idée d'un carnaval antifasciste, et les soupe-causeries sont devenues aussi le lieu où on va en discuter tous les 15 jours pour l'organisation de ce carnaval qui devrait avoir lieu en mai ou en juin, quoi. Donc en fait, c'est devenu, en fait, quelque part, raconter toutes ces initiatives-là, désolé, c'est un peu lourd, mais c'est devenu en fait un espèce de lieu très vite là de discussion d'un peu tous les projets qui s'organisent en local, et puis une espèce de plateforme où peuvent se retrouver les gens pour parler de politique. Et ce qui est cool, c'est que bien sûr, il y a les anciens militants et militantes, ceux qui sont héritage du 10 septembre et qui étaient déjà militants et militantes avant ça, comme on le disait, tout cet héritage soulèvement, les syndicats solidaires, etc., qui existaient déjà ici. Il y a les primos militants, militantes qui ont rejoint le 10 septembre et qui font partie de cette initiative-là. Et puis, il y a plein de nouvelles personnes là qui nous ont rejoints sur les dernières soupes parce qu'un sujet les intéressait ou un autre. Et en fait, ça en a fait un lieu là qui, très vite, là, on l'a vu sur les deux dernières soupes, était aussi un lieu où tout le monde nous disait « Putain, c'est super cool » parce qu'il y a une espèce de truc de rencontre intergénérationnelle qu'on n'a pas habituellement, où la ville de Quimperlé est très jeune et moins militante. Et les communes des environs sont très militantes, mais avec des militants et des militantes qui sont plus âgés souvent, quoi. Et du coup, il y a un peu tout ça, quoi. Il y a différents profils politiquement parlant, différents âges, etc. Et un peu ce truc d'apporter ses légumes, d'apporter une bière, de faire la soupe ensemble, etc., permet en tout cas de créer cette plateforme de discussion et de voir un peu tous les projets que tout le monde fait et de se donner un peu de la force mutuellement et tout, quoi. Et voilà, donc là on en est là, et ce qui est assez cool, c'est qu'il y avait vraiment cette volonté de transformer l'essai et de sortir un peu de l'esprit on vient du 10 septembre, et peut-être de pas trop s'accrocher à ce truc là mais de se demander comment on devient autre chose et comment on cultive un truc qui est vraiment un espace de décision collective, citoyenne, et dont le parti pris là, ça a été de créer ce moment de rendez-vous collectif, et puis que ça puisse générer des projets et que ça donne envie à des gens de se rencontrer pour monter différents projets. Et typiquement, là, sur le projet de coopérative de consommation sur lequel je bosse pas mal, bon, on est 4-5, dont des personnes qui n'étaient pas du tout militantes avant, etc. Et ça a un peu favorisé ce truc-là. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour ça.
Je pense que ce sera jamais tout, et on pourrait détailler pendant des heures, mais en tout cas, c'est super. Et merci de raconter tout ça, et puis ça fait le lien avec ma question d'après, puisque tu as déjà répondu sur notamment un aspect, mais oui, nous, si on fait aussi ces webinaires, si on a aussi envie de réfléchir à ces questions, c'est aussi pour se demander comment est-ce qu'on arrive à s'organiser contre la montée du repli sur soi, de l'autoritarisme, des idées d'extrême droite, en tout cas de haine et d'exclusion, qui montent un peu partout dans la société, et particulièrement dans les campagnes où on est, où beaucoup d'entre nous sommes. Et ouais, la question que je voulais vous poser à tous les quatre, c'était aussi comment est-ce que vous vous posez cette question-là vis-à-vis du contexte. Toi, tu as mentionné les réactions à la mort de Quentin Durenc, mais j'imagine qu'il y a plein de choses à dire sur comment est-ce qu'on lutte contre les idées fascistes, autoritaires, réactionnaires. Est-ce que vous vous posez cette question-là dans le cadre de vos coalitions et de vos assemblées? Est-ce que, Laurine, peut-être, ça te dit de commencer?
Alors, évidemment, c'est une question qu'on se pose, qu'on sait poser et qu'on se pose encore, plus que jamais, avec certaines difficultés, hein, parce que là, les camarades, je les entends, je vous entends pas mal parler de la problématique de l'entre-soi. Je parle sous contrôle de Martin aussi, je pense pas que ce soit quelque chose qu'on a réussi à surmonter nous de notre côté, ou en tout cas pas complètement, parce que comme vous l'avez compris, alors pour le coup on a eu des nouvelles têtes, des nouvelles personnes, on a un peu justement avec le mouvement du 10 septembre, on a bénéficié de nouvelles dynamiques, et du coup ça a ramené un peu de nouvelles personnes, des néo-militants ou néo-militantes pour les qualifier ainsi, mais on reste quand même effectivement sur un terreau un peu d'averti, quoi. Donc ça on l'a pas trop surmonté de mon point de vue. Maintenant, il y a cette vertu, comme je disais précédemment, quand même, d'arriver à bah, au moins élargir. Et puis, je vois pas d'autres moyens. J'ai l'impression que c'est ce qui ressort aussi des autres tours. C'est quand même que pas d'autres moyens que la force du collectif et les liens permanents. Et nous, ben, j'ai l'impression que notre champ d'intervention, et après je laisserai Martin compléter éventuellement, mais c'est sur le terrain des luttes locales, sur le département. Là où pour l'instant on arrive à un peu intervenir, en ce moment on mène une grosse lutte contre un surf park qui veut se créer à 200 mètres de la mer. Bon, ça s'est structuré autour d'un collectif de riverains, riveraines, quoi, d'habitants. Donc c'est des locaux. Là, on est sur un sujet hyper local et l'Assemblée des luttes clairement est arrivée hyper vite en soutien à la demande du collectif. Donc ça a cette vertu-là et ça c'est une manière, je pense, de clairement résister à cette idéologie de division de la société, quoi. Et donc on intervient sur d'autres champs de lutte. En plus, on a, comme vous l'avez compris, du coup on a plein de parties, de membres très variés dans cette assemblée. Donc en fait, évidemment que le syndicalisme sur le lieu de travail, il va aller aussi contrer un peu ces idéologies. Bref, on a la capacité d'intervenir sur différents endroits. Je pense que c'est là où on est. La réponse, elle est pertinente. Et puis, ben, ne serait-ce que cette force de collectif, ça nous, c'est une forme de. Déjà, c'est rassurant, quoi. Juste, c'est une vertu rassurante et c'est un peu protecteur, quand même. Je sais pas, Martin, toi, là-dessus.
Bien, j'ai pas grand-chose à ajouter, hormis le fait que pour répondre à la question qui était soulevée sur. La question du territoire, notamment ruralité, c'est peut-être déjà considérer le temps long, ce qu'on n'avait peut-être pas l'habitude entre avertis de assez considérer, c'est-à-dire que dans l'entre-soi, on a peut-être tendance à être vite dans l'urgence est de considérer que le problème, il est tout de suite maintenant et qu'on doit déployer de l'énergie pour le régler tout de suite maintenant, alors qu'on apprend petit à petit, et je ne dis pas on a appris, je dis on apprend petit à petit, moi le premier, à considérer le temps long et à considérer que cette initiative-là, l'Assemblée des luttes, elle doit être un peu parallèle des luttes d'urgence, entre guillemets, et qu'elle doit se considérer sur... le temps long, parce que les choses vont se créer petit à petit et que c'est en étant solide que ça sera robuste dans le temps, quoi, si je peux m'exprimer ainsi. Ça, c'est la première chose. Après, même si moi, je crois qu'on a vraiment beaucoup de travail à faire là-dessus, sur la question de... Parce que nous, l'Assemblée, comme Laurine l'a sûrement dit, elle se situe essentiellement à La Roche-sur-Yon. Sur le territoire vendéen, c'est une des plus grosses... collectivité, quoi, enfin ville. L'enjeu est de délocaliser et d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Et là, je pense qu'on a un vrai travail aussi à faire pour que l'entre-soi militant sorte un petit peu de ses façons de faire habituelles, de ses parfois, je vais dire ça peut-être de manière maladroite, mais ses façons de faire qui sont un peu moralistes. Ouais, moralisatrice et faire preuve d'humilité en considérant que parfois dans d'autres espaces la bonne façon de faire elle arrivera de ceux qui sont dans l'espace, enfin dans ces espaces, quoi, sur le terrain d'une lutte et pas en regardant ça de quelques kilomètres, parce que parfois j'ai tendance à penser que en ruralité quelques petits kilomètres eh bien c'est déjà ça pour ne pas avoir le bon diagnostic sur une situation. Donc, je crois qu'il faut apprendre à se connecter le plus possible avec ce qui se passe le plus près possible. L'exemple de Talmont et du surf park est pour moi un très bon exemple, celui que nommait Laurine. On voit bien qu'il y a une asso locale qui essaie de se dépatouiller pour faire au mieux et que nous, on essaye d'être en soutien pour aussi apporter un maximum de force, d'outils, de moyens, de façon de croiser les regards. Et en même temps, la réalité, c'est que au quotidien, les gens sont sur le territoire, donc il ne faut pas non plus faire un espèce de truc qui serait de l'ordre d'une intrusion militante qui serait maladroite. En tout cas, il faut faire au mieux, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu le propos. Mais faut éviter, je crois, d'arriver comme... des éléphants et des magasins de porcelaine, et essayer de préserver aussi des sociabilités rurales qui sont à prendre en compte dans les façons dont on lutte. C'est indéniable. Voilà ce que je peux ajouter. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui arriveront après, mais en tout cas, là, c'est ce sur quoi ça me fait réagir.
Excellent, merci beaucoup. Une toute petite réaction. Lutter contre l'extrême droite dans les campagnes, et revenait souvent cette question du temps long, quoi. Se dire que des fois, il faut penser le changement des mentalités sur 15 ans, 20 ans, et que ça nécessitait non seulement de la détermination, mais beaucoup d'organisation. Donc, justement, ça rejoint le fait de s'organiser pour le faire, et le faire de façon pérenne, quoi. Peut-être, Valentine, est-ce que toi, ça te parle? Est-ce que vous avez réfléchi à cette question de comment aussi lutter contre les idées d'extrême droite, et réagir au contexte depuis des luttes environnementales? Donc, c'est peut-être pas forcément l'objet premier.
Oui, effectivement, parce que nous, l'extrême droite, de toute façon, elle est bien présente dans les Pyrénées-Orientales. Hein. On a 4 députés RN, le maire de Perpignan qui est RN, et les localités qui sont sur le littoral votent très, très, très à droite. Et bon, plus on va vers la montagne, plus on vote à gauche, mais de moins en moins. Donc effectivement, nous, c'est pas la cible première, mais évidemment on en parle. Alors c'est vrai qu'on parlait de l'entre-soi et un peu de l'essoufflement militant, ça nous est arrivé, hein. On était aussi très nombreux au départ, et puis là c'est un peu plus difficile de mobiliser tout le monde. On a aussi beaucoup on a très peu de jeunes. Ils étaient surtout actifs via Extinction Rébellion, qui en ce moment, un petit peu en sourdine. La fac de Perpignan n'est pas une fac très militante, hein, comme Montpellier, Toulouse ou ailleurs. Donc c'est la réalité du territoire. Donc, après il y a des espaces de solidarité, hein, et des lieux alternatifs, il y en a partout, un peu partout. Mais avec pas forcément beaucoup de mise en réseau. Ce que je me dis, c'est que, alors nous, on a un réseau qui est là, qui est en ce moment un petit peu en sourdine, mais qui peut se réactiver à tout moment, et notamment s'il faut faire face à une arrivée de l'extrême droite vraiment de manière très concrète d'ici 2 ans ou dans les prochaines années. Donc il y a tout un réseau de solidarité, hein, de connaissances, on est en lien. J'ai pas cité, mais il y a une cantine, hein, qui s'appelle Miam Cantine à Perpignan, avec qui on est en lien aussi, et tous ces lieux alternatifs dont je parle. Donc ça, je pense que ça, on y pense, on sait que ça existe. Et puis actuellement, en fait, la manière dont il y a beaucoup d'entre nous, les membres des associations et collectifs qui sont dans la coalition, il y en a beaucoup qui sont dans les campagnes des municipales. Et donc ça, l'idée, c'est à la fois de s'opposer à des maires locaux un peu mafieux, comme je disais au départ, hein, puisque le territoire vit beaucoup de sa rente foncière, et donc c'est vraiment un système mafieux. Donc là, s'il y a un premier objectif, c'est de pouvoir renverser ces municipalités, même si elles sont parfois à gauche, PS. Et l'autre, c'est faire front, de s'opposer à des listes fascistes. Donc par exemple, moi, mon co-porte-parole qui n'est pas là ce soir, il a été, il s'est engagé, une liste de gauche qui s'est montée, hein, et très qui va donc du PS à justement la gauche plus radicale, et lui, donc c'est un écologiste plus radical, et donc il a été sollicité pour à la fois faire partir la municipalité actuelle qui fait qui laisse construire à tout va, qui laisse implanter des centrales solaires au sol, qui ne fait rien pour les habitants, qui n'a pas vraiment de vision, et puis également parce qu'il y a une liste fasciste qui s'est montée également. Donc ça c'est un peu notre réponse effectivement face à la montée de l'extrême droite. l'engagement politique, et notamment en essayant aussi la question des listes municipalistes, dont parlait notamment, enfin, Claude est un super exemple, hein, c'est vraiment un super témoignage qu'il donne. Donc il y a aussi pas mal d'initiatives comme ça dans les Pyrénées-Orientales. Voilà, et on verra ce que ça va donner.
Ah, je crois que ça a coupé, mais tu avais, j'ai l'impression, fini ou presque. Est-ce que... Ouais. Ok. Bah pareil sur cette même question, est-ce que Claude, en plus je crois que tu dois partir prochainement justement pour la vie de la commune, mais est-ce que Claude, tu veux aussi nous dire un petit peu toi comment tu perçois ouais, le fait que votre action là, en tout cas municipale, permet aussi de peut-être faire refluer un peu les idées de l'extrême droite? Ça fonctionne, tu m'entends? Allô, allô, Claude.
Vous m'entendez?
Là, oui. Maintenant, oui.
Ah, ok. Ça marche pas. J'ai entendu Martin employer le terme humilité. Et c'est tant. En fait, en les campagnes, naturellement, les idées de l'extrême droite sont très très ancrées. Vouloir aborder de front les gens qui votent extrême droite pour leur expliquer la vie et leur expliquer pourquoi c'est pas bien et tout, c'est simplement voué à l'échec, et au contraire ça crispe leur positionnement. C'est des gens qui ont souffert toute leur vie, qu'on leur dise ce qu'ils avaient à penser. Voilà, oui, la seule solution, elle est dans le partage, elle est dans le tremble sur des sujets, elle est dans le en fait. Elle est dans le collectif, sans être de le soutien. On ne cache pas ses idées, bien entendu, mais on n'essaye pas par l'expérience de la vie en commun et tout ça. Et en campagne, il y a d'immenses possibilités pour cela. Et bien, il n'y a que ça, à mon avis, c'est le seul pour faire un peu bouger les esprits. J'ai un attaque frontal, de temps à rien, quoi. Ou alors, de temps en temps, au miracle, une conversion individuelle. Parce qu'on cherche une conscience un peu plus massive, un peu plus collée.
Ouais, avec la vie, avec
les travaux qu'on peut mettre. Comment ?
Je suis désolé, Claude, ça assure pas mal, on t'entend assez mal. Est-ce que soit c'est ta connexion ? C'est un peu compliqué, on t'entend de façon hachée. Ah,
désolé, j'ai rien changé par rapport à tout. Ça ne marche plus alors.
C'est peut-être un souci de micro, je ne sais pas.
Allô, vous m'entendez là ?
Là, ça a l'air d'aller. Essaye.
Caméra.
Oui, peut-être qu'en enlevant les caméras, ce sera plus simple.
On est en campagne, donc la connexion est mauvaise. Donc, je ne sais pas ce que vous avez entendu. Moi, je disais juste aux vertus de l'expérience collective et de l'expérience du travail ensemble sur les sujets qui nous concernent. Et il n'y a que ça, à mon sens, aujourd'hui, le temps long. Oui, le temps long pour faire évoluer les esprits et espérer que les choses s'inversent. Voilà. Je disais que je ne croyais plus à la confrontation directe. Voilà. Ça marche. En tout cas, il y a peu de réussite quand on essaye d'expliquer aux gens ce qu'ils doivent penser. Donc, si ça nous fait horreur, il faut être patient, quoi. À mon avis, on n'a pas d'autre choix. Ça signifie pas qu'il faut arrêter de manifester, d'être dans des groupes militants et dans des luttes. Je dis pas ça, mais dans nos petites expériences d'assemblée locale, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut essayer d'être vraiment respectueux, même si des fois c'est dur, et de travailler ensemble dans ce respect, d'instaurer la confiance. À partir du moment où la confiance est instaurée, ben on peut parler, et on peut se comprendre, on peut comprendre d'où chacun vient, pourquoi il pense ce qu'il pense, et l'autre comprend aussi pourquoi nous, on est dans cet état d'esprit-là. Et parfois, ben, on a de bonnes surprises, comme celles que je vous ai citées. C'est tout. Je sais pas quoi dire de plus.
Eh ben, merci Claude, c'est déjà beaucoup.
Je vais vous abandonner parce que j'ai une réunion à 20h. Donc, merci de m'avoir accueilli.
Eh ben, pas de problème. La démocratie avant tout. Merci beaucoup pour cette soirée. À la prochaine. Et peut-être pour finir sur cette question, Moana et Ziz, si vous nous entendez encore.
Ouais.
Oui, bah vous avez déjà un petit peu répondu sur l'aspect quelques initiatives contre l'extrême droite, mais j'imagine que c'est les questions que vous posez souvent. Et peut-être pour rebondir sur ce que disait Claude, comment est-ce que vous voyez et vous pratiquez le fait peut-être d'arriver à convaincre des personnes un peu différentes, un peu éloignées, pas forcément militantes ou même de gauche, sur ces sujets-là?
Ouais, bah du coup oui, pour partager aussi le constat qui a été fait par tout le monde, c'est que nous aussi on n'est pas sorti, on n'est pas sorti d'un entre-soi, on est sorti d'un entre-soi militant, mais on n'est pas sorti d'un, surtout sur le territoire de Quimperlé, où voilà, on est un territoire qui est assez privilégié là-dessus. Encore une fois, les gens sont essentiellement à gauche, la mairie est une mairie de gauche un peu à l'ancienne, un peu je sais pas, mairie pas rouge, je ne vais pas exagérer parce que c'est le PS, mais qui a une vraie politique culturelle locale et ce genre de choses et tout. Donc c'est un territoire qui a cette identité-là déjà. Et du coup, voilà, on sort pas non plus d'un entre-soi à ce niveau-là. Nous, le truc qu'on a plutôt réussi à dépasser, c'est le fait de ne pas être en tout cas que être entre avertis. Ça c'est vachement. Ça, il y a eu quelque chose qui a bougé là-dessus, c'est clair. Et du coup, sur le long cours par rapport à l'extrême droite, bah, c'est vraiment l'idée, on l'a vu avec cette histoire de rassemblement pour Quentin de Ranque, c'est que le jour où on a appris ça, donc le rassemblement était 2 jours après, en fait, on a réussi en 2 jours à faire venir 200 personnes. Alors, c'est lié aussi à plein d'autres choses qui sont, on a un contexte local qui est très particulier, qui est qu'il y a eu l'événement contre Bolloré, en fait, sur le territoire, qui a inclus une quantité de militants et de militantes qui est à peu près tout le Finistère Sud, quoi, et même plus large que ça. On avait aussi des camarades du Morbihan, du Finistère Nord, etc., sur les actions contre Bolloré, là, qui avaient eu lieu l'année dernière. Et en fait, ça, c'est un réseau c'est un truc avec lequel on est en interaction quand même, et qui est un réseau qui se réactive facilement. Ça, c'est assez favorable pour la résistance à l'extrême droite, c'est-à-dire qu'on peut, quand on juge que c'est un peu chaud, et c'est ce qu'on avait avec le rassemblement pour Quentin de Ranque, on s'était dit... on est le seul rassemblement de Bretagne Sud, on va peut-être avoir des faf de tout le coin qui vont converger, et du coup c'était très facile d'envoyer des messages à droite à gauche et d'avoir des camarades de plein de villes aussi qui viennent nous soutenir. Et donc ça, déjà il y a cette dimension militante là, le fait d'avoir eu une grosse action sur laquelle des personnes de toute la Bretagne Sud se sont mobilisées, ça a vraiment, ça a créé quelque chose là qui reste, quoi, qui est vraiment un réseau de solidarité militante, ça pour le coup. Et puis après, en local, voilà, à Quimperlé, le soir où on a appris la nouvelle du fait qu'il y aurait un rassemblement en l'honneur de Quentin de Ranque, il y avait beaucoup de gens qui étaient des personnes, voilà, encore une fois, à profil de gauche, bien sûr, mais pas très militantes, et qui ne savaient pas du tout comment réagir et qui se disaient « il faut faire quelque chose ». Et là, du coup, ce qui était cool, c'était que avoir ce moment de soupe, c'est devenu directement, c'est devenu très spontanément, l'endroit où discuter de ce genre de choses-là, quoi. On leur a dit, bah, du coup, il y a ce rendez-vous qui existe, venez, on en parle et on s'organise collectivement pour ça, si vous avez envie de faire quelque chose. Et du coup, il y a quand même vachement de monde qui est venu à la soupe. Donc, ça crée déjà un rendez-vous, et ça, c'était aussi quelque part un peu le but recherché. Et donc, c'est chouette en fait, quand il se passe quelque chose, c'est d'avoir un réseau existant qui va permettre, et un point de rendez-vous qui va permettre qu'on se retrouve et qu'on en discute. Et c'était aussi un peu l'idée initiale, même avant qu'il se passe, avant par exemple cette histoire de rassemblement pour Quentin de Ranque, l'idée c'était dans la continuité du 10 septembre, c'était aussi ce qu'on se disait sur le fait qu'il faille muer quelque part, transformer l'essai, etc. C'était de créer quelque chose qui puisse se réactiver très très facilement pour un prochain, pour une prochaine colère, je sais pas, enfin un prochain événement national ou local, etc. Qu'on ait quelque chose qui soit facilement réactivable, quoi. Et du coup, ça c'est un peu l'idée, on se dit, pour résister à l'extrême droite sur le temps long, encore une fois, c'est un travail de temps long qui n'est pas pour l'instant un travail de convaincre, mais un travail de pouvoir facilement permettre aux personnes, lorsque l'énergie se présente, et on sait que ça va se passer à plein de moments, d'avoir un endroit déjà où ils savent qu'ils peuvent retrouver du monde facilement et un rendez-vous qui existe, quoi. Et ça, c'est vraiment le truc qu'on a envie de réussir à maintenir. Après, sur le fait de réussir à convaincre et tout, je suis assez... Enfin voilà, c'est l'exemple de Claude, je pense qu'il est absolument incroyable pour ça. Alors ça se joue à l'échelle d'une plus petite commune, mais je pense que c'est aussi l'idée de ce vers quoi on veut tendre avec le fait que cet espace, de, par exemple de soupe, n'est pas juste un espace de rencontre, mais aussi un espace où ça doit se transformer en initiative locale, et donc ça doit générer des groupes de travail qui doivent être en dehors de ce moment de soupe, des gens qui se rencontrent aussi en dehors de ça et qui avancent sur d'autres projets, et qui soient là des projets le plus possible ancrés sur le territoire, et donc... le soutien aux paysans et paysannes locaux. Le but, c'est que ça aille vers tous les paysans et paysannes locaux qui en ont besoin, quoi. Et donc, déjà, créer quelque chose qui ne va pas regarder nécessairement... Voilà, là, on ne te demande pas d'être ultra à gauche pour avoir le soutien, pour avoir le soutien de cette équipe qui va aider les paysans et paysannes locaux. La coopérative de consommation, c'est qu'elle puisse proposer quelque chose qui aide tout le monde, etc. Donc, l'idée, voilà, c'est que ça permet d'être moteur sur des projets ancrés dans le territoire, quoi. Et c'est un peu cette réflexion que quel que soit quel que soit notre avenir politique, que ce soit je sais pas les insoumis qui passent disons à la prochaine présidentielle ou municipale, ou que ce soit l'extrême droite, c'est que c'est toujours utile d'avoir créé des solidarités et des projets d'auto-organisation, enfin on apprend à s'autogérer, à s'auto-organiser. Je pense que c'est un peu ça qu'on a au fond de la tête, c'est que ce lieu de rencontre là, de la soupe, etc., doit être moteur pour créer des choses ancrées dans le territoire, quoi. Et ça va nécessairement nous aider contre l'extrême droite et ouvrir de nouvelles perspectives. En tout cas, voilà, on n'en est pas encore à penser vraiment comment convaincre les gens. Je pense que ça, c'était la volonté initiale du 10 septembre. C'est plus trop ce qu'on est en train de faire là maintenant, mais en se disant qu'on doit y revenir à un moment en créant des choses sur le territoire, c'est clair, quoi. C'est difficile.
Ben, c'est effectivement difficile, c'est jamais fini. Moi, ça me rappelle juste une petite anecdote de camarades qui se battent contre le fascisme, tout simplement, dans le bassin minier, qui sont en tout cas partis de pas grand-chose et qui sont plutôt très minoritaires là-bas, et qui racontent souvent comment est-ce que la première étape, c'est aussi de se faire connaître et de se rassembler entre les personnes qui ont envie de se battre et de se mobiliser, de montrer qu'on existe, quoi. Et donc ça, c'est déjà en soi un très beau geste et un très grand geste qui permet d'aller plus loin ensuite. Donc super et merci. Je prends peut-être une question du chat avant de passer à la suite, mais on va aussi prendre un maximum de questions. D'ailleurs, n'hésitez pas à en poser un maximum dans le chat. Mais oui, il y a Aïcha qui demande s'il y a du lien avec les personnes racisées, les collectifs, et peut-être par extension, est-ce que dans vos assemblées, vos collectifs, vous posez aussi la question de l'antiracisme, des collectifs qui se battent là-dessus? Je ne sais pas si peut-être pour commencer, Laurine ou Martin, vous voulez répondre. J'ai cru comprendre que c'était parti aussi de mobilisation sur ces sujets, l'Assemblée de Vendée.
Oui, à la fois c'est parti de là, et en même temps je vais modérer je vais modérer notre réussite, mais tu diras Martin, mais en fait c'est un vœu pieux, nous, j'ai l'impression, parce qu'en fait sur le fond, c'est parti de là. Oui, on a fait plusieurs actions sur ce sujet-là. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est suivi des faits et que on sort toujours de l'entre-soi. C'est toujours la question. Alors, on se pose les questions justement. Comment aller Alors, on a dans les faits, on a quand même des assos qui travaillent sur le sujet toute l'année et qui donc forcément sont en contact avec, je ne sais pas comment dire, des qui sortent de l'entre-soi, qui sont avec en contact avec des publics plus ouverts, hors militants, des personnes racisées, évidemment, nous, on a, il se trouve, j'ai pas décliné toutes les assos, tous les collectifs qui constituent en réalité l'Assemblée des luttes. On a, par exemple, la CIMAD, qui évidemment travaille avec les camarades migrants, migrantes. Voilà, là, je le dis à la SERP. Maintenant, on n'investit pas assez, de mon point de vue, les quartiers. Comme l'a dit Martin, on est encore trop focalisé sur la grande ville, entre guillemets, hein, qui fait 70 000 habitants de Vendée. Mais on est très peu, même ne serait-ce qu'on est un peu dans les quartiers dits populaires, même si c'est discuté entre nous. On s'est encore très peu délocalisé. Donc, ce qui fait que, de mon point de vue, oui, on est encore dans un entre-soi assez important. Voilà, c'est ce que je dirais moi comme ça.
Ouais, et puis très rapidement ajouter que en fait il y a quelque chose qui est très paradoxal, en tout cas de notre côté, c'est que il peut y avoir un entre-soi militant, mais un entre-soi militant dans l'intention commune et un contre-soi militant dans la modalité diverse, quoi. C'est-à-dire que sur la question antifasciste, j'ai l'impression que l'intention est partagée. Pour tout le monde, mais que la façon de résoudre n'est pas partagée de la même manière sur les modalités que vont avoir certains, qu'il s'agisse de groupes antifascistes et d'autres qui vont pas forcément y adhérer pour diverses raisons. Et puis aussi d'autres manières, en fonction des groupes, de considérer pleinement ou de comprendre pleinement des situations. On peut prendre un exemple très précis aujourd'hui sur la lutte et la mobilisation agricole, dans le sens où on a pu constater lors de la dernière assemblée, il me semble, alors peut-être pas des tensions, mais en tout cas des questionnements autour du fait que, eh bien oui, sur la mobilisation paysanne, sur des mêmes ronds-points, il y a des personnes de la coordination rurale et des personnes de la CONF, et c'est inacceptable. On ne peut pas s'allier avec la CR parce que… Enfin bref, il y avait un propos un peu moralisateur vis-à-vis de la CONF dans ce parti pris-là. La question, c'est aussi de comprendre la totalité d'un contexte, la totalité d'un secteur professionnel, la totalité d'une lutte pour pouvoir comprendre les tenants et les aboutissants de ces choix-là et de ces décisions. Donc, de fait, c'est pas tout le temps simple, et on maîtrise pas tous de la même manière, et on porte pas tous le regard en fonction de où on parle dans nos diverses composantes de l'Assemblée des luttes.
Juste si je peux ajouter quelque chose rapidement, Victor, là où… Alors, ça sort de ta question, Aïcha, en réalité, puisque tu posais plutôt la question du lien avec les personnes racisées, mais là où on a progressé, de mon point de vue, via l'Assemblée des luttes, et c'est toujours dans cette perspective de rencontre, c'est que on travaillait toujours seulement en silo. Et par exemple, ce qui faisait qu'on se rencontrait pas du coup de manière très diverse, on se rencontrait pas du tout. Et là, maintenant, par exemple, on travaille beaucoup avec les camarades du centre LGBT, etc. Et du coup, on a ce qui fait forcément, mais ça rejoint ce que disait Martin, ça fait forcément évoluer nos pratiques militantes, et ça crée forcément rencontre entre des personnes très variées. En cela, quand même, c'est positif, pour apporter un peu une note positive et une marge. Enfin, il y a un peu de progrès de ce côté-là, quoi. Donc, forcément, on se questionne. C'est tout de suite, que ça soit conscient ou inconscient, on se questionne sur des rapports de domination, d'oppression, via cette assemblée et via la rencontre entre ces collectifs quand même très variés. Voilà, quand la CIMAD discute, rend compte de ce qu'elle fait, invite du monde et les centres LGBT également, bon, bah, il y a quand même rencontre et discussion, même si c'est largement perfectible et largement, enfin, on pourrait amener plus ces sujets-là par ailleurs plus sur la table encore. Voilà, pour moi.
Excellent. Est-ce que Valentine ou Moana ou Ziz, ça vous fait réagir sur ce sujet-là, ou pas d'obligation, mais si jamais vous avez quelque chose à raconter?
Ouais. Ouais, on peut partager du côté de Quimperlé. C'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé, mais Nous, on a deux assos qui sont qui accompagnent. Donc, on a pas mal de familles de réfugiés. Donc, on a deux assos, notamment une qui accompagne plus sur l'aspect administratif et l'autre qui accompagne plutôt des jeunes dans la vie culturelle, en fait, locale. Et la complexité, c'est qu'en fait, c'est des personnes qui sont assez liées à, justement, on parlait de Bigard. C'est beaucoup de personnes racisées, beaucoup de réfugiés, en fait, qui travaillent chez Bigard. Donc, on a essayé de faire du lien, comme disait Aziz tout à l'heure, notamment via les sondages, etc. C'est pas évident. Je pense que là où il y a une perspective de lien nouveau, notamment via ces assos-là, ça va être justement l'aspect carnaval antifasciste, où il y a une volonté qui a été déjà exprimée de se rapprocher beaucoup plus en fait, de ces personnes et de ces collectifs-là. Donc voilà, je pense qu'il y a une volonté forte, mais que pour l'instant, c'est clair que c'est vraiment pas évident au vu de la structure et du lien avec l'agro-industrie. Est-ce que tu veux rajouter des choses ?
Ouais, juste dire que c'est vrai que nous, il y a une configuration territoriale qui est vraiment très particulière et qui, je pense, est un enjeu de ville, de petite ville comme la nôtre, quoi. On est vraiment dans un milieu semi-rural, donc encore une fois, Quimperlé, 12 000 habitants. 1200 employés chez Bigard, par exemple, avec, je pense, franchement, 500-600 exilés qui bossent là-bas, en fait, quoi. C'est assez fou. Mais du coup, et je pense qu'il y a d'autres villes de la même taille qui n'ont pas du tout cette configuration, etc. C'est assez spécifique à Quimperlé. Mais du coup, c'est ça, les seules voies, en fait, qu'il y a pour les exilés sont par ces deux associations, mais qui ne sont pas non plus gérées par des personnes racisées. Il n'y a pas de quartier non plus, en fait, où on trouve spécifiquement les personnes racisées. Il n'y a pas du tout cette configuration-là à Quimperlé. Donc je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener, nous, sur notre territoire, sur comment faire du lien, bon, par les assos existantes, quand même, un truc historique, voilà, c'est les seuls à vraiment faire ça, quoi, et qui font un travail énorme, mais puis, de manière générale, comment créer des solidarités, je veux dire, notamment, je sais pas, ouais, en allant, je pense qu'il y a une question qui est très liée au travail, ouais, du coup, quoi. C'est-à-dire, il y a des portes d'entrée via, nous, on connaît des personnes qui travaillent chez Bigard, qui sont des ouvriers non racisés, mais qui nous parlent de ces enjeux de racisme qui existent au sein de la boîte, qui, eux, du coup, font un travail de défense quotidien des personnes racisées au sein de Bigard, par exemple. Mais qui sont 4 à tenir la baraque sur 1200, alors que l'essentiel des ouvriers sont non racisés, sont assez racistes, etc. quoi. Donc là, il y a des vrais, vrais enjeux aussi de choses à construire qui ne sont pas du tout abordés sur le territoire. En fait, nous, il y a vraiment cette problématique-là, quoi. C'est que je pense qu'il y a peu de collectifs qui émanent de personnes racisées là pour l'instant sur le territoire. J'ai l'impression qu'ils sont assez esselés et qu'il y a une vraie réflexion à mener et qu'on n'y est carrément pas, quoi. Ça, c'est clair. Enfin, il faut le faire, de ouf. Et que ce serait une mission pour justement ces rendez-vous-là qu'on se donne, ce serait vraiment une question à apporter, quoi.
Ah bon. Et Valentine, ouais.
Bah 2 minutes, mais nous, on n'y est pas du tout confrontés, évidemment, à la question des personnes racisées, parce que notre lutte, c'est l'écologie, l'environnement, les espaces naturels. Mais cela dit, ce que je voulais quand même partager, c'est que ça, c'est une question générationnelle. C'est-à-dire que nous, dans notre coalition, effectivement, on est beaucoup quand même de personnes militants, d'anciens militants, quand même, de plus de 40 ans, 50 ans, 60 ans. Hein, les jeunes, comme je disais tout à l'heure, on n'en a pas beaucoup. Et donc, c'est vrai que là, on parle de personnes racisées, de LGBT, etc. Donc, effectivement, ça, c'est... à travers... en fréquentant, finalement, des mobilisations, par exemple, comme les résistantes en 2020, les premières, c'était en 2023 ou 2024, je ne sais plus. Donc, on est beaucoup d'entre nous, on y est allés. Donc, voilà, on n'a pas 25 ans, on n'a pas 30 ans, on est quand même plus âgés. Mais on a été confrontés à des manières de faire, des pratiques et des attentions portées à des groupes de personnes qui, nous, n'étaient pas du tout dans nos manière de faire militante, finalement. Donc, voilà, c'était simplement pour dire que à travers cette coalition et de se confronter d'autres pratiques, qui amène aussi à s'interroger et à faire plus attention, peut-être, à des groupes de personnes auxquelles on n'aurait pas forcément fait attention, forcément. Donc c'est vrai que ça nous fait bouger aussi, hein, de ce mélange de générations et de manières de voir la société. Voilà, ça c'est ce que je pouvais dire sur cette question. On n'y est pas, c'est pas direct, mais en tout cas de manière indirecte, on y est sensible.
Eh ben, merci à vous trois. Le temps passe. N'hésitez pas à poser des dernières questions dans le chat si vous en avez. Et peut-être parce que justement sur ce sujet et sur tous les autres, la façon de s'organiser est toujours clé et jamais neutre, quoi. La question que je voulais vous poser aussi, c'est peut-être de détailler un tout petit peu votre fonctionnement. Des fois, on a l'impression que les initiatives que vous racontez sont en tout cas tellement intéressantes et ont réussi tellement de choses que c'est très compliqué et peut-être pas tant que ça. Et peut-être que, est-ce que vous auriez des conseils à donner sur comment lancer cette initiative un peu du genre, comment la faire fonctionner pour que ça marche bien, que ce soit le plus ouvert possible, etc. De l'ordre de choses très pratiques, quoi, hein, pas seulement des grands choix politiques que vous faites. En tout cas, qu'on visualise un peu mieux comment ça fonctionne en interne. Est-ce que Laurine et Martin, ça vous dit de commencer là-dessus?
Ouais, Martin, il a parlé, effectivement, je ne sais plus comment tu l'as dit, Martin, mais de modestie. Moi, je pense que c'est la base. Et d'abord, là, nous, on parle de là où on est, on parle du territoire où on est et de notre assemblée. Je pense que ça, c'est essentiel de contextualiser. Ensuite, on fait avec le terrain. Bon, nous, on a fait avec le terrain militant aussi qu'on avait, les orgas. Je pense que c'est avant tout de l'humain, c'est un équilibre fragile. Pardon, j'ai pas remis ma caméra. C'est un équilibre vraiment fragile. C'est-à-dire que comme on est en réalité dans de l'humain, dans l'interperso, parce que c'est aussi ça. C'est à préserver en permanence. Alors, il n'y a pas de solution magique de mon point de vue. Je disais en préambule avant que tu arrives, Martin, que ça s'était lancé donc par ce mail un peu rigide, je sais pas comment le dire autrement, et puis avec ce cadre, mais qui semble basique pour les militants, militantes plus chevronnés par ailleurs, hein, ça n'était pas évident pour tout le monde, quoi, d'avoir un tour de table à chaque assemblée, parce qu'en fait il y a des nouvelles têtes qui arrivent ou qui peuvent arriver déjà, juste de savoir à qui tu parles et d'où tu parles et qui se présente. Ça semble évident, mais en fait ça ne l'est pas forcément, d'avoir aussi une vision claire de qui a des mandats et qui n'en a pas, de pas hiérarchiser entre les personnes qui en ont et qui en ont pas. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'hiérarchisation de ce côté-là chez nous, mais j'espère que c'est pas le cas, j'espère ne pas me tromper. Ensuite, la visualisation de d'autres choses. J'ai parlé, en fait, on fait prénom, pronom, mandat. Ça a permis aussi de se mettre en confort pour plein de camarades qui avaient jamais vécu ça dans nos cadres avant en Vendée, parce qu'en fait ça se faisait pas avant, je crois de mon point de vue, ou dans très peu de cadres. Ensuite, le partage des tâches, c'est encore en construction, c'est pas évident, c'est un peu les pratiques d'autogestion de base, mais c'est juste, il y a le tour de table, il y a les comptes rendus, les tâches de secrétariat que vous imaginez à chaque fois, mais en fait c'est pareil, comme on essaye quand même de sortir de cet entre-soi et construire de partager des cultures militantes assez diverses, c'est important de visibiliser toutes ces tâches qui sont toujours pas assez partagées, hein. Il y a des batailles autour de faire les framas, qui fait les framas et qui sait faire les framas. Nous, on a eu la chance d'avoir une camarade qui a créé de A à Z, qui avait la compétence, qui est une compétence pour le coup pas simple, mais de création de site. C'est le site qu'on vous a partagé tout à l'heure, là, de l'Assemblée des luttes. Mais ça passe par tout ça. Je sais pas, Martin, si tu vois d'autres choses, je réfléchis aussi en parlant.
Des outils qui soient accessibles à tous, c'est-à-dire que... Et quand je parlais d'humilité tout à l'heure, c'est le fait d'accepter que ces façons de se bousculer tout autant les uns que les autres, elles sont normales. C'est-à-dire que quand, comme disait Laurine, on a commencé à acter tours des paroles, mesures du temps de parole parfois trop long des hommes, etc., etc., il faut accepter... pour certains qu'en fait on va instaurer ça, et il faut aussi malheureusement accepter que pour certains des fois c'est pas ok, ça les emmerde, et qu'en gros c'est le temps qui fera qu'à un moment ce sera automatique, quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Aussi avoir dans ce qu'on disait tout à l'heure sur le temps long, considérer qu'il y a des choses qu'on devra rassurer, en fait chacun dans le fait de faire collectif, chacun a besoin d'être rassuré à de multiples reprises, tous autant que nous sommes, et c'est aussi à ça que le temps long il reste, enfin il sert, pardon. Quand je parlais des outils, c'est aussi avoir des outils accessibles et parfois expliquer pourquoi ils le sont et pourquoi on choisit cela. Parfois accepter aussi que certains ne veulent pas les utiliser, donc il faut les multiplier. Et puis parfois aussi accepter que ça ne fonctionne pas comme on aimerait, quoi. Voilà ce que je peux dire.
Oui.
Encore le temps long. Vas-y, vas-y.
Pardon, Victor. Oui, le temps long, ouais, bah oui. Mais juste une chose. Il y a un truc qu'on a instauré, alors on l'a fait plusieurs fois. Après, parfois, on est bousculé par l'actualité et des heures du jour denses également. Mais en fait, on a instauré, on l'a fait plusieurs fois, c'est des points dits longs de présentation. Des points longs de présentation des orgas, des collectifs, etc., des assos qui constituent l'assemblée, en fait, parce que toujours dans cette perspective de se rencontrer, de se connaître réellement. Et donc, la CIMAD, par exemple, a eu un temps de présentation sur tout simplement ses activités, d'où elle vient, pourquoi elle existe et ce qu'elle fait. Et ça aussi, je pense que ça solidifie le collectif, quoi. En fait, c'est aussi ça, c'est se rendre compte que finalement, on est en train de créer un collectif en soi, de nulle part, quoi, ex nihilo. Et ça, c'est ce qu'on est en train de vivre. Voilà. Et puis, ça fait complètement lien, je pense, à ce que tu viens de dire, Martin. Il y a des moments où ça achoppe. Juste l'admettre et que c'est pas grave. Parce qu'en fait, en réalité, c'est OK que ça achoppe tant qu'on en sort par le haut. Et ça, c'est aussi, je pense, une question de pratique. Nous, on vote de mémoire. On n'a jamais voté, je crois. Et ça s'est fait un peu comme ça. Donc, en fait, on a plutôt en définitive une pratique de consensus. Je le dirais comme ça. Et ça semble bien fonctionner. Voilà. Pour finir, c'est ce que je dirais.
Eh ben merci beaucoup. Est-ce que sur ces petits tips de fonctionnement et de pour bien durer et réussir à fonctionner en collectif, est-ce que toi, Valentine, il y a des choses que tu retiens qui ont bien fonctionné chez vous à Vieux ?
Ben nous, très concrètement, en fait, on se faisait des réunions dans les trois premières années. On se faisait des réunions soit en présentiel à Perpignan quand j'étais là, soit en visio tous les mois. Et on se retrouvait, donc il fallait qu'il y ait une personne par collectif ou association qui soit présente. Et puis, on se donnait les dernières informations des luttes locales et on décidait collectivement sur quelle lutte on allait apporter un soutien. Voilà, donc c'est par exemple sur la grosse manifestation contre le golf ou le pont de Céré, ben à un moment, donc on a décidé d'y aller, et donc on s'est réparti les tâches, voilà, qui va faire quoi, la com, le communiqué de presse, la logistique, etc. Donc ça, voilà, donc ça fonctionnait comme ça. Là, comme on s'essouffle un petit peu depuis quelques temps, on fait des réunions sur demande uniquement. Quand quelqu'un a un besoin. Voilà, et puis effectivement, après, lors des réunions, on a aussi introduit toutes ces nouvelles pratiques, notamment qui ont été données par les plus jeunes d'entre nous. Donc, soit la question des temps de parole, toutes ces pratiques qui permettent que chacun puisse s'exprimer, donner son avis et surtout d'accueillir aussi à chaque fois les nouvelles personnes, les nouveaux groupes le mieux possible. Voilà, d'essayer de rassembler, en fait, ça c'était vraiment hyper important, d'être vraiment à l'écoute et rassembler un maximum de personnes et d'être très bienveillant avec tout le monde. Voilà, ça c'était un maître mot. Et après, donc tout ça était très empirique, hein, personne n'avait vraiment de... Enfin, si, il y avait aussi tous les vieux militants qui étaient là avec leurs pratiques, les jeunes militants avec leurs pratiques. Il y en a certains avec des cultures politiques fortes, d'autres pas. Moi, c'est pas mon cas, par exemple. Donc, on tâtonnait, mais ça a permis de faire énormément de choses, d'organiser beaucoup de choses. Et puis, et on essaie de continuer, voilà, malgré, comme je disais, c'est un petit essoufflement généralisé, mais tout ça, en fait, est en place quand même, et c'est un réseau qui existe et qui peut être réactivé à tout moment, et ça, c'est important de se dire ça. Et je suis en train de me dire, en vous écoutant, vous tous aussi, hein, peut-être de faire peut-être des liens avec les autres types d'associations, voilà, travailler avec les sans-papiers, les migrants, enfin, ça pourrait être aussi, on pourrait peut-être un petit peu aller davantage vers ces milieux-là aussi. Voilà ce que je peux dire sur notre mode de fonctionnement.
Eh ben, merci beaucoup. Est-ce que Moana et Ziz, sur vos secrets de fabrication, quelque part, sur le fonctionnement de l'Assemblée, est-ce que vous avez des petits conseils à partager, ouais.
Je pense que pour le, comment dire, pour le, quand on faisait nos réunions encore, enfin nos assemblées, donc au début c'était vraiment des assemblées, quand on venait du 10 septembre, ça a duré quand même un certain moment avec pas mal de monde, quoi. On était minimum 30 pendant vraiment un mois et demi, deux mois, quoi. Et puis c'est un peu le côté ouais, assembléiste, réunionniste, etc., qui nous a un peu flingué, quoi, le fait de se poser dans une salle et de discuter, etc., et de retomber dans un truc un peu de réunion militante. Et en fait, du coup, le parti pris avec la soupe, c'était quelque part, en fait, d'avoir un format d'assemblée qu'on ne dit pas trop le nom. C'est-à-dire que là, on a convergé vers un modèle qui est assez ouvert, où l'idée, c'est, une fois, c'est donc chacun apporte ses légumes, et c'est découpe, enfin épluchage et découpe, qui est le moment introduction des nouvelles personnes. En fait, on a vraiment un déroulé d'assemblée populaire classique, quoi. Donc ce moment, c'est l'introduction. On fait un moment ensuite de, pendant ce temps-là, tout le monde peut aller poser ses sujets sur un tableau qu'on a, où on écrit menu citoyen. Et en gros, le menu citoyen, c'est le menu des sujets que les gens veulent porter, quoi. On essaye de faire un moment pas trop long, collectif, de compte-rendu, on va dire, des différents groupes qui ont des sujets à apporter. Donc la coop de consommation va dire « nous, on a avancé là-dessus, c'est ça notre projet », les brigades d'action paysanne vont dire « machin », le carnaval antifasciste va dire « machin ». Et puis après, on va s'éclater en groupe de travail, ce qui correspond en fait au moment où, enfin, avant limite que la soupe soit prête, bah, on va se poser avec un verre et discuter déjà en groupe à différents endroits, même sur une grande tablée, quoi. Et puis après, quand la soupe arrive, enfin voilà, il y a différents groupes de personnes qui bouffent ensemble et qui parlent du sujet dont ils ont envie de parler. Et puis on peut changer de groupe, quoi, au milieu si on veut. Et du coup, en fait, c'est carrément un format d'assemblée populaire, mais version, on le fait autour d'une soupe et on le dit pas trop. Et en fait, je pense que ça, quelque part, ça donne une autre dynamique, quoi, au truc. C'est beaucoup plus ouvert et c'est un peu moins, je sais pas, c'est un peu moins flippant que ce format où on n'est pas en train de faire quelque chose collectivement. Donc là, c'est l'épluche, la découpe et la bouffe. Quand on est juste posé comme ça à parler, ça va nécessairement générer ce truc où c'est les personnes les plus habituées à parler qui vont parler, etc. Enfin, on va retomber dans ces vieux travers-là, quoi, et qui ne donnent pas super envie à des personnes qui sont primo-militantes, je pense. Donc voilà, déjà, ça casse un peu cette dynamique, c'est cool. Et puis sinon, en termes de tips sur comment lancer quelque chose comme ça, en vrai, enfin, moi, ce que ça m'a fait me dire là, cette petite expérience-là, c'est que utiliser un peu l'inertie qu'on a lors de certains moments politiques où les gens vont être super motivés pour mettre en place un petit système qui, lui, peut durer dans le temps parce qu'on crée une forme de rituel qui est cool, quoi. Donc se dire, bah, la prochaine fois qu'il se passe un truc politiquement qui fait qu'il y a du monde qui va avoir envie de faire quelque chose, bah, c'est de dire peut-être, enfin, ce modèle de soupe ou autre chose qu'on a en tête, quoi. Mais venez, on prend le temps d'en discuter, chacun ramène ses légumes, on se fait une soupe ensemble et on discute de ce sujet et on voit comment on s'organise. Et en fait, ça crée un rendez-vous qu'on peut après avoir envie de reproduire et en y apportant des sujets locaux, etc., quoi. Ça peut être une petite porte d'entrée. Enfin, nous, là, j'ai l'impression que ça marche pas trop mal. Et voilà, c'est une petite manière de faire. C'est pas parfait, c'est pas ultra éminemment politique, mais c'est une porte d'entrée pour politiser un peu du monde déjà, quoi.
C'est vraiment super et merci, effectivement. C'est toujours bien de rappeler que ça tient souvent à pas énormément de choses, mais que c'est des choses clés qui permettent de garder nos collectifs et de les faire fonctionner bien et démocratiquement sur le temps long. C'est trop bien. Merci tout le monde. On n'a pas forcément de questions dans le chat. On a encore un tout petit peu de temps pour une ou deux questions, si jamais vous en avez. C'est le moment. Je vous laisse un tout petit moment pour ça. Et le temps que ça arrive, peut-être je vous pose la question aussi, Tamara, tu vois, est-ce que vous avez des liens, des conseils, des choses écrites que vous voudriez transmettre aussi pour la suite? On va faire une compilation aussi de notre côté qu'on publiera à un moment, mais est-ce que vous avez des choses à recommander ou lire pour aller plus loin? Et je commence avec nos camarades du syndicat de la montagne Limousine qui n'ont pas pu être là ce soir, qui avaient été invités, qui devaient intervenir aussi, mais qui est un modèle d'organisation vraiment très intéressant et très chouette en tant que syndicat d'habitants sur un territoire assez grand, en fait, qui recouvre beaucoup de communes sur le plateau limousin, où justement ils essayent, je vais en parler très peu pour ne pas du tout parler à leur place, mais en tout cas ils essayent de prendre en charge plein d'aspects différents, que ce soit de la lutte, de la convivialité, de l'entraide très concrète et très matérielle, l'animation de lieux, et tout ça se coordonne très bien dans un même syndicat, et de façon très logique, quoi, pour changer les choses en grand, et eux existent depuis très longtemps. Je vous mets le lien de leur site dans le chat, comme ça vous pouvez aller jeter un œil. Très, très intéressant comme format d'organisation également. Du coup, ouais, vous avez des recommandations?
Des recommandations de quel genre?
Eh bien, de tout genre, littéraire, de liens vers des sites, de choses pour aller plus loin.
Ben, moi, très vite, je suis allée voir Terre de Lutte. Hein. C'est le premier site que j'ai trouvé pour nous aider à fonctionner. Et j'ai lu pas mal de vos documentations. Donc, ça, c'est un conseil que je pourrais donner, d'aller voir Terre de Lutte.
Eh ben, merci. Effectivement, là, dans le chat, a aussi été remis le site luttelocale.fr, qui est un site qu'on a contribué notamment à animer pour y mettre plein de ressources. Pour s'organiser, pour faire des recours juridiques, pour communiquer, etc., etc. Et puis donc pour s'organiser aussi en collectif. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et vas-y, Laurine.
Non, mais très brièvement, bon, j'aurais dit la même chose, mais sur le site. Mais sinon, je pense qu'on est en train de faire et vivre là, grâce à vous. Et sans s'embêter à créer des coordinations et énergivores, je pense que c'est pas s'empêcher, par contre, de. On n'a pas la chance d'avoir tout le temps des webinaires comme ça, par contre, pour se rencontrer et échanger, mais c'est pas s'empêcher éventuellement de contacter justement des assemblées et des collectifs pour échanger. Enfin, nous, faut pas hésiter et pour voir comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des trucs reproductibles? Parce qu'évidemment, comme j'ai dit, c'est faut le remettre en contexte à chaque fois. Mais je pense que ça, c'est une bonne manière de faire aussi. Et ça, et ne serait-ce que ça permet de rester dans l'humain et d'aller toujours dans la rencontre aussi. Et peut-être en privilégiant des territoires un peu similaires, malgré tout, je pense que c'est du coup plus pertinent, mais voilà.
Ben, carrément, et on compte, j'espère vous voir pour tous les prochains webinaires. Je rappelle qu'on en a fait déjà 4 précédents sur les greniers, réseaux de ravitaillement, les réseaux de soins, les mutuelles de matériel et les cantines de lutte. On en fera un prochain le 16 avril sur les lieux militants et comment les bars associatifs, les locaux associatifs, etc. peuvent aussi être des endroits très forts pour s'organiser et pour peut-être contrer les créer du dialogue et contrer les idées d'extrême droite de plein de façons différentes. Donc ça, on vous donne rendez-vous le 16 avril pour la suite. Pour celles et ceux qui aiment les bouquins, je vous mets aussi puisqu'on parle d'éducation populaire, il y a aussi énormément d'associations d'éducation populaire un peu partout. Vous pouvez forcément en trouver près de chez vous, et je vous mets un livre qui s'appelle Organisons-nous, manuel critique, qui donne aussi plein de pistes pour s'organiser, que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous. Voilà. Est-ce que quelqu'un a est-ce que vous avez un dernier mot de la fin, les camarades, pour clore ce webinaire? N'ayez pas peur. Sinon c'est moi qui fais, il n'y a pas de problème.
Ouais. Non, moi j'ai envie de dire, on a envie de bosser aussi sur le territoire, c'est pour ça que je voulais pas le dire pour pas m'avancer trop, mais sur ce projet de coop de consommation locale, c'était un peu comment on peut utiliser la consommation, qui est un truc qu'on fait au quotidien, qui est pas un truc parfait, hein, qui pose plein de questions parce que vouloir utiliser la consommation pour financer des choses, ça veut forcément dire... Enfin, c'est moins bien qu'un projet SSA et tout, enfin sécurité sociale de l'alimentation qui est plus complet. Mais voilà, on a envie en tout cas de voir comment, à partir du blé qu'on génère par la consommation, créer quelque chose de vraiment solidaire et faire quelque chose de reproductible. Et ça nous paraît un truc pas trop difficile à mettre en place, comme tous les supermarchés coopératifs qui existent, mais qui sont solidaires que pour ceux qui ont les moyens d'y aller, en fait. Voilà, et de faire un truc plus ouvert que ça, etc. Enfin, voilà. Et là, on aimerait bien, on a envie vraiment de documenter ce truc-là. En le faisant, quoi, donc on verra où ça nous mène et si c'est vraiment faisable et ça marche bien, quoi. Et voilà, mais sinon, merci beaucoup, Terre de Lutte, encore une fois, d'organiser tout ça, c'est génial.
Ouais, merci.
Et ben, alors ce sera le mot de la fin. Vas-y, Laurine, pardon.
Non, mais moi je l'ai mis dans le chat. C'était aussi un plaisir de vous entendre. Ah, pardon, excuse-moi, Valentine.
Vas-y.
D'accord. Non, mais c'est un plaisir de vous rencontrer, de vous écouter aussi, les camarades. Et du coup, j'essaierai de me tenir au courant parce que du coup, ça rend curieux et en tout cas, c'est revigorant. Et voilà. Et puis, nous, comme je vous disais, on va rendre compte, on va en rediscuter dans notre assemblée de ce webinaire et de ce moment et de tout ce que vous faites là chez vous. Voilà. Merci.
Oui, moi je voulais dire c'était très réconfortant effectivement de vous écouter tous. Et ce que je voulais dire, c'est que d'impulser et de faire partie de ce type d'assemblée, c'est vraiment, enfin je trouve que c'est vraiment une aventure humaine très, très enrichissante, vraiment passionnante. Enfin voilà, j'adore et j'espère que ça va continuer parce que enfin voilà, c'est vraiment formidable de pouvoir vivre ça. Et donc je à tout le monde d'impulser ce type de mouvement parce que c'est ce qui fait aussi un peu le bonheur actuellement, hein, d'être en lien, de fédérer et de se sentir fort et pas tout seul.
Eh ben, merci beaucoup à vous. On continue de se parler et puis on se voit pour les prochains webinaires. En tout cas, merci tout le monde et à très vite, très bonne soirée.